Cet épisode est sponsorisé par User Testing. User Testing est une solution de collecte de retours utilisateurs et d'insights clients. Dans ce podcast, on parle souvent de la nécessité de tester son produit pour savoir ce qu'en pensent réellement les utilisateurs. Avec User Testing, vous pourrez facilement recruter vos clients et des utilisateurs pour tester vos interfaces, que ce soit un site web, une application ou même des maquettes. Les retours obtenus sur User Testing vous permettront de savoir ce que pensent vraiment vos utilisateurs de vos interfaces et de prendre les bonnes décisions d'évolution pour vos designs. Alors rendez-vous sur usertesting.com afin de comprendre vos utilisateurs et leur délivrer la meilleure expérience possible.
Salut, c'est Gauthier Zimmermann. Il y a quelques années, j'ai décidé de changer de métier et de devenir product designer. Quand j'ai pris mon nouveau rôle, j'avais des doutes et des questionnements sur mon choix. J'ai alors rencontré des designers de tous horizons pour apprendre de leur parcours et de leur expérience. C'est grâce à leur histoire que j'ai pris confiance en moi. Je me suis nourri de leur expérience pour progresser dans mon métier. Aujourd'hui, j'aimerais que chacun ait cette opportunité, grandir en apprenant des histoires des autres. Dans ce podcast, tu vas profiter un mardi sur deux du recul et des réflexions des meilleurs mentors design. Leur parcours est unique, il t'aidera sûrement à construire le tien. Profite de cette discussion pour choisir les conseils qui seront le plus utiles dans ta carrière. Bonne écoute!
Théo, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Design Journeys, le numéro 76. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet clairement différent par rapport aux autres sujets du podcast, puisqu'on va parler de game design, mais surtout de board game design, donc des jeux de société. Je tiens à remercier Julien Pelletier qui m'a dit « Oui, il faut que tu parles à Théo, il faut qu'il vienne ». Je t'ai contacté, tu m'as dit oui, merci beaucoup. Et donc du coup, Théo, pour faire simple comme introduction, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ?
Ouais, bien sûr, avec plaisir. C'est toujours un peu bizarre de se présenter. Il y a toujours un truc de tu sais pas ce que tu dis et ce que tu dis pas. Et il y a, je remarque qu'il y a j'ai un réflexe un peu de, d'enfant, je pense, parce que je dis toujours, bonjour, je m'appelle Théo Rivière. Et après, je dis mon âge et ma ville. J'ai 33 ans et j'habite à Bruxelles. Alors que c'est pas une information très importante pour les gens, mais j'ai tendance à toujours faire ça. Et je suis auteur de jeux de société à temps plein depuis 6 ans maintenant. J'ai sorti mon premier jeu il y a 10 ans. C'est une espèce d'anniversaire de carrière qui donne l'impression d'être vieux. C'est un peu bizarre. Et à côté de ça, j'ai deux activités que j'ai montées. Une qui me prend pas beaucoup de temps, une qui me prend un peu plus. Celle qui prend pas beaucoup de temps, c'est que j'ai co-monté une maison d'édition qui s'appelle Spiral Édition. Mais plus pour accompagner des copains pour faire des chouettes projets que dans l'absolu pour m'amener plus de travail que j'ai déjà un peu trop. Et à côté, j'ai aussi monté une boîte qui s'appelle Kaedama, qui est une entreprise qui apporte du game design et de la création de jeux à partir de cahiers des charges sur ce qu'on appelle du jeu de commande, donc à la fois destiné au monde du jeu de société contemporain assez classique, donc avec des gens avec qui on a l'habitude de travailler, et en allant jusqu'à bosser avec des entreprises complètement extérieures.
Trop bien, on va parler de tout ça aujourd'hui, parce que j'ai découvert ce monde en fait en cherchant un peu tout ce que tu as fait. Alors j'avoue que c'est la première fois où... plutôt que d'aller sur le LinkedIn de la personne, je suis tombé sur sa page Wikipédia. J'avoue que ça m'a un peu déconcerté au début, mais en tout cas, c'est cool et on va parler de ton parcours aujourd'hui et du travail que tu fais. Et la question que je pose en termes d'introduction, et tu le sais puisque tu as écouté le podcast, c'est toi, comment t'en es venu à faire du design et plus précisément, du coup, du game design?
C'est vraiment le hasard et on en parlera, je pense, en détail, mais auteur de jeu, game designer, c'est pas vraiment un métier, dans le sens où il n'y a pas de formation pour faire ça. On parlera éventuellement un peu des revenus, mais les revenus sont assez aléatoires et un peu compliqués. Donc fondamentalement, tu peux pas du jour au lendemain te dire « Ok, je deviens auteur de jeu ou autrice de jeu » et puis te lancer dans cette voie-là. C'est plutôt quelque chose et des parcours où on y arrive un peu par hasard. Moi, en l'occurrence, c'est venu de deux trucs différents. Un truc où j'ai toujours peur que ça fasse prétentieux quand je le raconte, mais au final, je crois que ça va à peu près, j'ai été testeur pour une maison d'édition qui s'appelle Libellude, à Poitiers, là où j'ai fait mes études. Libellude que vous connaissez peut-être, vous qui écoutez, si vous avez déjà joué à Dixit, qui est un des très très gros succès du jeu contemporain et qui est un jeu qui a été édité par Libellude. Et je me suis retrouvé un peu par hasard, notamment parce que je traînais beaucoup dans la boutique de jeux et que je jouais beaucoup beaucoup à Magic l'Assemblée à cette époque-là, à tester des prototypes de jeux chez eux, et donc à avoir des jeux pas finis entre les mains, à jouer et puis à donner mon avis. Un truc qu'on fait vraiment très régulièrement et qui est hyper essentiel dans ce boulot-là. Et ça m'a débloqué un truc, puisque j'ai joué à des choses que j'ai trouvées tellement mauvaises. Je me suis dit, en fait, ok, moi aussi, j'ai le droit de faire des trucs mauvais, j'ai le droit de créer des jeux. C'est ok s'il y a des gens qui osent présenter des prototypes de cette qualité-là à Libellude. Ça veut dire, non pas que j'oserais leur présenter tout de suite, mais au moins que j'ai le droit de me lancer dans ce domaine-là, et c'est parti. Et vraiment, ça m'a complètement débloqué un truc créatif que j'avais pas spécialement à ce moment-là. De se dire, ok, je vais créer des jeux de société, c'est parti. Et donc, je me suis lancé. Et derrière, j'ai eu énormément de chance puisque c'est souvent un parcours un peu semé d'embûches et un peu long, mais dès mon deuxième ou troisième prototype créé, j'ai trouvé une maison d'édition.
Bon, stylé.
Là aussi, complètement par hasard, Benoît Forger, qui est aujourd'hui le gérant de Spaceco, qui est une marque de jeux pour enfants gérée par Asmodée, était un bon copain à l'époque puisqu'il travaillait chez Libellule pendant ce temps-là. Et moi, j'avais fait un prototype sur mon temps libre pendant un de mes boulots d'été pas terrible d'étudiant où je m'ennuyais énormément. Et je l'ai montré à un copain illustrateur qui m'a dit « Ah, tu devrais le montrer à telle maison d'édition ». Et moi, j'étais vraiment complètement perdu, j'y connaissais rien, je faisais des jeux parce que ça m'amusait de faire des jeux. Et donc, j'ai appelé Benoît Forger, en l'occurrence, pour lui dire « Allô, Benoît, est-ce que je dois montrer mon proto à machin? Comment ça se passe? Est-ce qu'il va voler mon idée? Je suis hyper stress ». Il m'a rassuré sur tous les points un peu rassurants. Il m'a dit « Mais c'est quoi ton proto, en fait? Moi, je veux voir aussi ». Et la première maison d'édition a jamais répondu, mais Benoît a vu le prototype, il m'a dit « Bah, trop bien ». C'est parti, moi je veux l'éditer. Donc j'ai été très vite dans le parcours éditorial, là où des fois ça prend des années, voire ça ne fonctionne pas, un peu avec des hasards comme ça que je m'explique pas trop et beaucoup de chance sur cet alignement de planète. Mais très vite ça m'a mis dans le parcours et ça m'a donné envie de rester un peu dans ce milieu-là et d'insister un peu. Aussi parce que je faisais des études qui aboutissaient pas forcément à du travail à la fin puisque j'ai fait un master pas terminé en littérature et culture de l'image. Ce qui était hyper chouette, vraiment j'ai adoré mes années à la fac et j'avais vraiment très très envie de faire de la recherche. En même temps j'avais très peur de faire un bac plus suite qui amène à pas de travailler à la fin, et donc j'ai bifurqué et c'est à ce moment là que je me suis dit ok, bah bosser dans le monde du jeu c'est sûrement ce qui me botterait le plus, et je me suis retrouvé derrière à travailler pour des maisons d'édition avec beaucoup de chance et assez facilement.
Trop bien. J'ai envie de parler un petit peu de ton parcours au début et après de parler vraiment de comment on crée un jeu. Parce que si j'ai bien fait mes recherches, les chiffres sont pas tout le temps les mêmes, c'est genre soit 40, soit 70 jeux sur lesquels tu as bossé.
En fait, je crois que personne met à jour Wikipédia, donc Wikipédia, il y a encore écrit 40, mais si je les liste, je crois que je suis effectivement autour des 70 maintenant édités.
Waouh, ok, très bien. Donc du coup, tu crées ce premier jeu,
tout à fait.
Édité, tu viens de le raconter. Ça se passe comment là, la première édition de son jeu? Je veux dire, tu crées un jeu, on te l'édite, c'est quoi le truc qui vient ensuite? C'est tu fais de la pub ou alors le jeu il explose pas? Comment ça se passe? C'est une chose de l'éditer et après c'est une chose de le vendre.
Ouais, tout à fait. C'est la partie vente, elle est plutôt généralement destinée aux maisons d'édition. On y reviendra, et même si moi aujourd'hui je suis un auteur qui communique beaucoup et qui travaille pas mal son image de marque, c'est pas forcément le bon mot, mais en tout cas qui a envie de parler aux joueurs et aux joueuses qui achètent des jeux en discutant avec eux. À l'époque, moi, je suis complètement perdu. C'est-à-dire que je me souviens que la maison d'édition, donc Purple Brain, qui n'existe plus, m'envoie un message. Donc, et je dis la maison d'édition, mais c'est que Benoît à l'époque, hein, c'est une seule personne. Il m'envoie un message genre « Ouais, je t'envoie le contrat pour relecture ». Et moi, ma réponse, c'est « Pardon, il va y avoir, on signe un contrat ? Comment ça se passe, là ?» Moi, je suis hyper maquillé, un contrat, il faut que je le lise. Et donc, il y a vraiment un truc de, à ce moment-là, moi, je suis un bébé, quoi. C'est avant la sortie, donc ça sort l'année de mes 23 ans, donc je dois avoir 21 ans ou 22 ans à ce moment-là.
Met autant de temps à sortir, quand même ?
Ouais, c'est généralement, en moyenne, on est entre 18 et 24 mois entre la signature et le moment où le jeu arrive sur le marché.
Ok.
Entre autres, parce qu'il y a 3 mois de production, plus 3 mois de transport, souvent. Un petit peu moins que ça, mais pas loin. Et donc, ça prend vraiment du temps en termes de processus.
Ok.
Mais donc, moi, je suis vraiment, à ce moment-là, Benoît me dit, ouais, faut qu'on discute entre autres de ta rémunération. Et je suis genre, pardon, je vais être payé pour que mon jeu y sorte, là. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe, quoi? D'accord, trop bien. Donc, vraiment, je suis complètement, complètement naïf sur énormément de points. Donc, quand le premier arrive, voilà, c'est que du bonheur et je me laisse porter par le truc. Et j'envisage vraiment, vraiment pas d'en faire une carrière. C'est plus OK, j'ai eu de la chance, mon premier jeu arrive, ça sera peut-être le dernier et puis tant pis. Mais très vite, pendant mon premier taf, je me dis, ah bah en fait, ça m'a vraiment fait vibrer, c'est trop cool, j'adore ça. J'ai envie de voir si je suis capable de le faire une deuxième fois, en partie aussi parce qu'il y avait une sorte de petit défi. J'ai été vachement bercé par les shonen quand j'étais gamin, donc il y a un truc un peu de dépassement de soi qui me plaisait. Et il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui font un seul jeu dans leur carrière et qui s'arrêtent là.
Okay.
Soit par déception, soit parce que il n'y a pas forcément cette volonté créative derrière, soit parce qu'il n'y a plus d'idées et que c'était une seule idée porteur et fondamentale, qui les a amenés à créer un jeu. Et moi, ça me travaille presque un peu, tu vois, il y a un truc presque intellectuel de me dire, ah, je veux pas être un mec qui fait un seul jeu. D'autant que donc Shinobi Wata, qui était le nom de ce premier jeu, a pas du tout été un succès. On a fait un tirage qui s'est vendu entièrement, ce qui est correct, okay. Mais derrière, le jeu a été oublié l'année d'après, quoi.
Ok, et quand tu dis un tirage, c'est quoi? C'est genre comme le bouquin, c'était 100, 1000, 10 000?
À l'époque, je pense qu'on a dû en tirer 3 000 pour la France et un truc comme 5 000 pour l'étranger,
okay.
Qui était un tirage correct pour il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est hyper variable en fonction de si tu travailles avec une maison d'édition qui a un gros reach ou pas. Mais généralement, les chiffres qu'on donne un peu, c'est si on arrive à vendre 10 000 boîtes d'un jeu, on commence à se dire, OK, ça valait le coup de le faire. Entre 30 et 50 000, c'est au moins un succès pour le milieu et c'est chouette. Et les jeux qui dépassent les 100 000, tu vois, moi, sur les 70, il y en a 4 ou 5 qui ont dépassé les 100 000 au total. Et un jeu qui dépasse 100 000 exemplaires, on se dit, ouah, cool, belle réussite, c'est génial. Et évidemment, on a des mastodontes et des best-sellers. Un jeu comme Dixit, dont on parlait, je pense qu'ils ont vendu 12 ou 13 millions aujourd'hui.
Wow,
on est à des années-lumière d'un jeu qui se vend à 3, 5, 8, 10 000 exemplaires.
Ok, très bien. Après ce jeu, tu commences à aller dans des maisons d'édition. J'ai décidé de tout regrouper en un. T'es passé par Yellow, qui édite Codenames en particulier.
Tout à fait.
Ça montre mon niveau de jeu de société. Tu vois, moi, je suis dans les jeux à 1 million. T'es passé rapidement par Tsume Art et après, t'es passé par Repo Productions, qui édite Seven Wonders ou Time's Up.
Ouais, voilà, des succès aussi.
Ouais. Je me suis vraiment limité à ça. Qu'est-ce qui t'amène à bosser chez un éditeur et comment tu te retrouves après avoir sorti ton premier jeu chez Yellow?
Moi, il y a vraiment ce truc de je veux bosser dans le monde du jeu. Je sais que auteur ou c'est pas une carrière, donc je vais pas pouvoir me dire ok je vais faire ça. Et je me dis ok bah je vais regarder, et je vais postuler. À l'époque, mon plan c'est donc j'ai grandi à Poitiers, à côté de Poitiers, et pas très loin il y a l'Engmin à Angoulême, qui est une école qui forme les gens dans le jeu vidéo.
Ouais.
Et je me dis ok bah je vais bosser dans le jeu de société, donc un peu l'inverse de beaucoup de gens, mais je vais aller à l'Engmin pour me former en jeu vidéo, mais je ferai pas des jeux vidéo à la fin.
Okay.
Je ferai du jeu de société, mais il me faut un bagage. Je suis d'un côté un peu bon élève, on m'a dit, faut faire la formation, l'école, machin, et je vais faire ça. Et donc c'est parti, c'est un peu ça mon plan. En parallèle, donc, toute l'aventure de Shinobi et de la première édition se met en branle. Et il se trouve que Purple Brain est distribué par Yellow, qui est éditeur, mais aussi distributeur.
D'accord.
Et donc, j'ai un petit pied dans la boîte parce que, ils vont distribuer mon premier jeu, c'est parti. Et peu de temps après, eux, ils font un appel en disant, on cherche quelqu'un pour faire de la gestion de projet. Et je me dis, ça sert à rien que je postule. Mon CV, globalement, c'est coucou, j'ai fait des boulots étudiants et j'ai un demi-master. Jamais ils vont me prendre, quoi. C'est hors de question. Ça sert à rien que j'envoie un message, c'est inutile, quoi. Et Benoît Forger, encore lui, qui a eu un impact significatif sur ma vie et ma carrière, me dit, vas-y, t'es con, fais une lettre de motive et un CV. Moi, je les connais, donc je vais leur dire de jeter un coup d'œil, même si, effectivement, ton CV, il aura l'air tout naze. Je peux pas appuyer ta candidature de manière significative, mais je peux te garantir qu'ils le jetteront pas à la poubelle tout de suite, donc fais ça, quoi. Donc je fais une grande lettre de motivation, un CV que j'envoie en me disant oui, ça sert à rien, mais on verra bien. Effectivement, ça sert à rien parce qu'ils me prennent pas comme chef de projet. Ils prennent un mec exceptionnel, Ludovic Papaïs, qui avait vraiment de la bouteille, notamment dans le jeu de rôle. Mais j'ai un profil que j'imaginais pas être intéressant, puisque à l'époque, j'étais organisateur de tournois et arbitre de Magic.
Ouais.
Et ils se disent, ok, ce type-là, on peut l'engager pour gérer nos événements. Il y avait personne qui gérait les événements chez eux à cette époque-là, à plein temps. Et donc, ils se disent, Théo, c'est parti, on va lui proposer ça. Et donc, je suis recruté pour un boulot. Alors, le monde du jeu, c'est souvent des petites boîtes, et Yellow, qui a beaucoup grossi depuis, était encore une toute petite structure. Donc, je suis géré officiellement pour être responsable du service après-vente, des événements, et un peu chef de projet quand même, parce que ça me fait rêver. Et donc, ils se disent, allez, c'est parti, on va te donner un peu des projets à gérer. Donc, je me retrouve à gérer tout ça à la fois.
Ok, et du coup, tu fais ça, tu restes plus ou moins 2 ans chez eux, tu t'occupes de toute cette partie événement tout du long des 2 ans, ou tu commences à te spécialiser petit à petit en chef de projet?
Je fais, de mémoire, je fais 1 an vraiment tri-casquette comme ça, et au bout d'un an, ils recrutent quelqu'un à temps plein sur les événements et le service après-vente. Okay. Moi, je bascule tranquillement vers de la gestion de projet, sachant que j'étais plus côté Yellow, comme pas mal de maisons d'édition, encore une double casquette, puisqu'ils vont à la fois éditer des jeux comme King of Tokyo, où c'est de la création pure et dure, et ils vont à la fois localiser des jeux. C'est le cas de Codenames. Codenames, Yellow s'occupe uniquement de la version française du jeu. C'est Chess Game Edition, donc un éditeur tchèque qui a fait le jeu au départ. Et donc moi, je fais plutôt de la gestion de projets en localisation que de projets en édition pure.
Et du coup, ça consiste en quoi, chef de projet localisation? Enfin, j'ai envie de dire un peu bêtement, genre c'est juste tu traduis, ou il y a une véritable adaptation qui se fait?
le plus gros boulot, c'est le boulot de sourcing. En fait, faut trouver les bons jeux qu'on a envie de localiser et trouver des deals commerciaux avec avec les différents partenaires en se disant bah tiens, ça on va le faire et ça on va pas le faire.
Okay.
Et c'est vraiment ça qui est au cœur de mon taf à ce moment-là, c'est jouer à tout un tas de jeux de partout dans le monde en se disant OK, ça a l'air intéressant, ça a pas l'air intéressant et puis OK, bah ça a l'air chouette. Contacter les personnes derrière, voir s'ils ont déjà un partenariat. Et après, effectivement, la partie éditoriale est assez faible, même s'il y a des jeux sur lesquels il y a un travail de localisation qui est un peu plus important. Typiquement, Codename, c'est un bon exemple, puisque Yellow a refait la couverture, qui jugeait vraiment trop moche pour le marché. Alors, généralement, on prend des pincettes, on dit « Votre couverture est vraiment très jolie, mais je pense qu'elle ne s'adapte pas à notre marché local. » Ça veut dire « Ok, on la trouve moche, vas-y, on va la changer. » Et donc, Yellow a changé la couverture de Codenames pour quelque chose d'autre. Donc, tu vois, il y a eu un boulot un peu plus important.
Okay.
Et pour rester sur cet exemple, même si j'étais plus là à l'époque de Codenames, bah forcément, faut traduire la liste de mots qui est fournie par Chess Game Edition. Mais il faut aussi se dire « Ah bah tiens, ce mot-là, nous, dans notre culture, il a un double sens qui marche pas. » Ou « Ah bah tiens, on va rajouter un certain nombre de mots qui ont justement une certaine forme de polysémie, ce qui fait que ça va être un peu plus intéressant quand on joue. » Je l'ai fait après chez Repo Productions, sur Time's Up. Et tu vois, sur Time's Up, faire une liste de mots, c'est pas juste « Vas-y, on prend 200 personnalités, on les met, on est bon. » Il faut réussir à avoir des trucs qui se répondent un peu et gérer un peu la liste.
Ok, ouais, donc t'as quand même une adaptation culturelle, en tout cas pour ces jeux-là, pour pouvoir t'adapter et pour pouvoir garder l'essence même du jeu.
Tout à fait, même si effectivement, tu as tout à fait raison, il y a certains jeux sur lesquels il n'y a pas ce travail-là, et des jeux très 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 mécaniques, bon, au final, il faut traduire, mettre en page avec tes graphistes, t'assurer que tout soit bon, parfois accompagner un peu la production, mais pas toujours, et après le jeu il arrive sur le marché, et c'est parti, on voit ce qui se passe.
Ok. Tu t'as parlé de Repo Production. Là-bas, t'es assistant éditorial.
Ouais.
Ça consiste en quoi comme métier et en quoi c'est différent du chef de projet?
Ce qui est différent, c'est qu'il n'y a pas de localisation chez Repo Production. On n'est que sur de l'édition et que l'équipe est un peu plus importante. Donc là où sur de la gestion de projet édito, ce que j'ai fait un tout petit peu chez Yellow sur deux projets, il y avait quand même un peu la recherche de l'illustrateur ou de l'illustratrice, un peu de direction artistique, un peu de gestion de tous ces éléments-là, plus de production. Chez Repo Production, il y a un chargé de prod, il y a un directeur artistique. Donc moi, au final, je suis vraiment au cœur du game design. Et il y a une dimension qui est aussi importante chez Repo Prod qui n'était pas présente chez Yellow, c'est ils font plus de développement mécanique. Donc avec les auteurs et les autrices, travailler, faire des allers-retours pour changer la manière dont on joue le jeu une fois qu'il est signé et réussir à amener quelque chose d'un poil plus qualitatif. Donc vraiment plus au cœur dans le jeu et un poil plus de relations auteur-autrice-éditeur. Là où chez Yellow, on travaillait beaucoup avec des personnes avec qui on n'avait pas spécialement de contact.
Okay.
Chez Repo Production, il y a vraiment une culture de shooter un peu les auteurs avec qui ils ont beaucoup travaillé, de s'assurer que tout va bien. Et un peu plus de suivi de gamme aussi. Un jeu comme Seven Wonders ou comme Concept ou comme Time's Up, c'est des jeux qui ont eu des suites, des extensions.
Ouais.
Donc fondamentalement, bah ça, il faut un peu les réfléchir, discuter un peu avec tout le monde et un peu faire le chef d'orchestre de ce truc-là.
Ok, c'est ça ton rôle en fait, c'est chef d'orchestre.
Ouais. Tout à fait. Et ça, c'est le, quand je suis recruté, c'est le métier de mes rêves, quoi. Il y a vraiment un truc de Repo Production. C'est le boss de fin de ma carrière dès que j'arrive dans le milieu, quoi. Ils ont édité Ghost Stories, Seven Wonders, qui sont deux de mes jeux préférés. Ils ont fait Cash and Gun, qui est un jeu que j'aime énormément. Il y a vraiment un truc de, waouh, ils me font rêver de ouf. Et quand j'arrive, c'est exceptionnel sur tout ça.
Alors, je pose la question tout de suite. Du coup, qu'est-ce qui fait que tu restes que 2 ans chez eux et après tu décides de monter Kadama?
Il y a pas mal de petits éléments. Le premier, c'est Repo Production a été racheté par Asmodée, donc le gros groupe, il y a quelques années maintenant. Et au moment où j'y suis, c'est un peu le début du rachat potentiel.
Okay.
Notamment, ça a un impact sur Cédric Comon et Thomas Provost, qui sont les deux fondateurs et gérants de la boîte, qui sont un peu plus en retrait à partir de la deuxième année où j'y suis. Là où moi, c'est des mecs que je trouve brillants et j'ai envie de travailler avec eux. Et puis, bah, ils sont de moins en moins disponibles. Ils ont plus de réunions, ils ont plus de trucs. Donc, je suis un peu frustré par ça. La boîte grossit, en fait. Donc, il y a vraiment cette dimension moins de simplicité, plus de réunions. Et il y a un facteur qui est plus personnel, mais je crois que je suis un peu le cliché des millennials sur cet aspect-là de, bon, en fait, moi, ça me fait chier tous les trucs d'organisation, il faut que je demande à Thomas si on change, avec qui j'ai fait beaucoup de développement, si on change le coût de cette carte en 3 ou 5 pièces d'or. J'aimerais bien valider avec lui parce que son ressenti va être hyper fort, hyper intéressant, donc j'ai envie d'en discuter avec lui. Ah, faut que je lui envoie un mail pour prendre une réunion alors que ça prend 3 secondes dans un couloir. Ah, flemme, quoi. Et clairement, je sens à un moment que je suis un peu en décalage sur tout ça et que j'ai besoin d'un peu plus d'indépendance.
Ok. Et juste pour finir sur Robot Production, du coup, et surtout sur ton rôle de chef d'orchestre, ça veut dire que à ce moment-là, tu crées des jeux, tu réfléchis aux jeux, ou en fait, tu es plus là à te dire je bosse avec des auteurs et ils réfléchissent aux jeux, ils réfléchissent au design, etc. Et toi, tu dois t'assurer que ça fonctionne bien et ça roule bien.
Les deux. Moi, je continue de créer pas mal de prototypes et puis d'avancer sur cet aspect vraiment auctorial de l'affaire, mais c'est annexe à mon travail. Je suis vraiment pas payé pour ça, c'est pas lié par Robot Production. Donc c'est un peu, j'ai fini ma journée, je rentre chez moi, et puis à 18h, je me mets sur mon ordi, et puis je bosse les protos et on avance. Là où le boulot d'assistant éditorial était plus sur... et c'est des fois compliqué parce que cet équilibre, il est dur à trouver, je trouve, même aujourd'hui, en étant plus de l'autre côté de la barrière, mais entre le... On a toujours un rôle pour soumettre des idées aux différentes auteurs et autrices avec qui on travaille, tout en prenant un petit peu de place, mais à la fin, c'est pas nous les auteurs. Donc il y a toujours une dimension de ça m'est arrivé d'aller des fois un tout petit peu trop loin et un peu excité, un peu tout foufou, dire ah les gars j'ai réfléchi sur l'extension de Seven Wonders Duel, faut qu'on fasse ça 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 et ça va être trop bien comme carte, et que les copains ils me disent bah t'es gentil mais super on va garder ton idée mais en fait on va le faire nous, donc ça arrive plus un peu avec des petites impulses de dire ah bah regardez là ça c'est un peu trop fort ou là on pourrait aller dans telle direction, et après tu laisses travailler tes auteurs et tes autrices. Okay. Plus que vraiment sur un truc où tu mets les mains dans le cambouis à 100%.
Ok, très clair. Et donc, aujourd'hui, tu en as parlé tout à l'heure, t'as monté Kaedama avec des potes à toi. Est-ce que tu peux un peu juste, en guise d'intro, expliquer tout ce que vous faites, en quoi ça consiste, et puis après, on va rentrer dans le dur du sujet et on va parler de création de jeu.
Kaedama, on propose, c'est marrant, je vais te faire la plaquette tarifaire presque que je fais quand je rencontre des gens et je dois leur expliquer ce qu'on fait. Mais en gros, on a trois grands services différents qu'on propose. Le premier, c'est un service de consulting, donc c'est vraiment plutôt destiné à des gens qui sont dans le milieu du jeu de société. Et c'est un accompagnement avec une notion tarifaire à la journée. Donc c'est on s'est retrouvé à faire plein de missions très diverses, mais ça peut être toi t'as un jeu, puis t'as un problème, c'est déséquilibré, c'est toujours la personne qui commence qui gagne. Et nous, avec toi, pendant une journée, on va discuter, on va essayer de changer des trucs, on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne mieux. Mais ça peut être, on a eu des maisons d'édition qui sont arrivées avec tout un tas de prototypes qu'elles hésitaient à signer, en nous disant, tiens, jouez à tout ça avec nous, et puis dites-nous, est-ce que vous trouvez que ça s'inscrit bien sur le marché? Est-ce que vous connaissez des choses qui ressemblent? Donc c'est vraiment du consulting, et sur ça, on peut aussi aller jusqu'à, on a bossé avec des municipalités ou des trucs très institutionnels qui voulaient faire du jeu de société, mais qui étaient un peu perdus. Et à se dire, pendant une journée, on vous explique un peu c'est quoi le milieu du jeu, c'est quoi un jeu, comment ça fonctionne, et votre jeu de loi sur la transition écologique, on va essayer d'y amener un peu plus de ludique et faire en sorte que ça soit un peu plus chouette, quoi.
Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Parce que du coup, tu passes de maison d'édition et de création de jeu à faire du consulting dans le jeu. C'est quoi la suite? Enfin, c'est quoi le pont entre les deux?
C'est vraiment le hasard, là encore, mais en gros, moi, j'avais une discussion avec mes trois associés aujourd'hui, donc Ludo Corentin et Ludovic Maublanc, Corentin Lebras et Antoine Boza. On papotait régulièrement du milieu, on était devenus vraiment amis, on discutait un peu à la fois de nos malheurs et à la fois des petits bonheurs qu'il peut y avoir dans le milieu. Et à un moment, je leur dis, allez, c'est parti, j'en ai marre, je vais partir de chez RoboProd, je veux faire un truc, je sais pas trop quoi, et mes revenus en droit d'auteur sur les jeux que j'ai sortis sont pas suffisamment pour me payer. Mais je vais sûrement trouver un truc. Au pire, j'ai qu'à me lancer comme indépendant. Et puis, je fais un peu ce que je faisais en termes de développement mécanique et d'accompagnement des maisons d'édition, mais tout seul en indé. Et je sais pas si ça a marché, mais allez, je prends le risque, j'ai envie. Et c'est Antoine qui a le bonheur d'être quelqu'un très intelligent, mais qui a aussi beaucoup de réussite, donc pas trop de soucis financiers à ce moment-là. Toujours pas aujourd'hui d'ailleurs, mais pas trop de stress. Qui dit autrement, on monte une boîte tous les quatre. Et vraiment, moi, il y a un côté de je relis son message, tu sais, c'est sur Facebook Messenger à l'époque, et vraiment, je suis genre, pardon? Attends, quoi, il y a Antoine qui propose qu'on monte une boîte tous les quatre, mais évidemment que j'en rêve, quoi. On en discute un peu tous les quatre. Corentin, à l'époque, avait encore son boulot, il était chimiste, mais Ludo et Antoine étaient tous les deux auteurs à temps plein et plutôt auteurs à succès, donc il y avait un truc de, si on monte une boîte tous les quatre, vos deux noms vont nous apporter automatiquement des clients et de la reconnaissance.
Auteur de jeu ou auteur...
Ouais, tout à fait.
Okay.
Auteur de jeu, Antoine, il a fait Seven Wonders, qui est son plus gros succès, mais aussi Anabi, Takenoko, Tokaido, vraiment des trucs qui ont très très fort marché. Et Ludovic, il a fait Mr. Jack, Cyclades, des jeux qui sont assez massifs sur le dans le jeu de société contemporain. Donc c'est vraiment deux piliers assez assez forts, quoi. En plus d'être deux personnes que j'aime beaucoup, donc on lance la boîte et c'est vraiment moi au départ c'est vraiment je suis perdu et je me dis bah tiens qu'est-ce que je peux faire, bah la même chose en indépendant, bah on va voir, allez je prends le risque, dans le pire des cas dans deux ans je retrouve un taf et puis on ira, quoi. Et c'est tous les deux qui, enfin tous les trois, où on se dit bah vas-y on se lance, et il y a une forme très très claire un peu d'altruisme de la part d'Antoine et Ludovic de se dire ok, nous on aide deux petits jeunes qui se lancent, quoi. Il y a vraiment un truc de, et ça s'est vu puisque les deux premières années de création de la boîte, Corentin et moi avons été un peu rémunérés par Kaedama de ci de là, mais à l'époque Antoine et Ludovic sont bah nous on n'a pas besoin de sous, allez-y quoi, prenez-les et puis profitez-en. Ce qui implique que fondamentalement nous c'était plus notre travail au jour le jour, tu vois, ça a toujours été Corentin et moi qui gérons je sais pas la facturation, la gestion des clients, ce genre de choses, mais bah les deux là ils sont là pour nous soutenir, pour travailler avec nous, pour amener plein de choses, en partie parce que ça les fait marrer, en partie parce qu'ils se disent bah cool, on aide les copains, quoi. Donc encore une fois beaucoup de chance sur ça.
OK. Et toi aujourd'hui, tu te considères comme quoi? Tu te considères comme consultant, comme game designer, comme créateur de jeux, comme tout ça à la fois, rien de tout ça?
Non, c'est vraiment le boulot d'auteur qui m'habille le plus, et même tu vois sur Kaedama, le consulting, c'est une des grosses parties de ce qu'on fait, mais aujourd'hui, on l'a un peu délaissé pour être plus sur ce qu'on appelle le jeu de commande. Okay. Donc, est vraiment la création d'un jeu à partir d'un cahier des charges. Tu vois, c'est toi, t'arrives avec un petit doc, ou des fois c'est un mail, ou des fois c'est un message, qui nous dit, bah, j'aimerais bien un jeu qui ressemble à ça dans tel contexte. Et nous, on va arriver, on va travailler dessus. Ça peut aller de, on a fait pas mal de jeux à licence. On a fait un jeu Batman, un jeu James Bond. On a fait plein de jeux Naruto, qui est une des licences qu'on préfère. Là, on fait un jeu sur les Schtroumpfs en ce moment. Donc, vraiment à partir d'une licence dans l'absolu. Tout comme à partir de matos, on a fait un jeu qui s'appelle Draftosaurus, qui a bien marché, avec des petits dinosaures en bois, et c'est Ankama, la maison d'édition qui l'édite, qui vient nous voir en disant « Et coucou les loulous, nous on a le tooling pour faire ces petits dinosaures facilement en termes de production, est-ce que vous avez pas envie de nous faire un jeu avec ?» Okay. Ça c'est tout notre cahier des charges. Jusqu'à, et aujourd'hui c'est un truc qu'on referait pas spécialement parce que c'était un peu trop crevant, mais c'était porté par une vétérinaire et une meuf du marketing qui était super, mais on a fait un jeu de formation pour Royal Canin sur l'apport en micro et macronutriments dans l'alimentation pour les chats et les chiens.
C'est très niche. Enfin, si je peux mettre la blague d'ailleurs.
Non, elle est parfaite. Et là, tu vois, c'est un truc qui a été produit à 10 exemplaires. Même nous, on n'a pas de boîte qui sert, en gros, quand ils font leur formation, au lieu de faire une demi-heure de diaporama un peu relou, ils sortent le petit jeu qui s'appelle Gamel Quest. Et nous, on est resté jusqu'au bout, ça, on est un peu fiers. Et ils jouent à Gamel Quest et ils apprennent un peu que les Yorkshire, ils ont besoin de, et j'ai plus les termes, mais de tel nutriments. Mais attention, il faut pas donner de thon à un chat de telle race parce que autrement, ça peut faire un déséquilibre alimentaire, etc. Wow. Donc, tu joues à ton petit jeu et à la fin, t'as retenu un peu des trucs.
OK.
Et tu vois, ça, cette partie-là de Kaedama, donc la création sous contrainte, c'est ce qu'on essaie de faire le plus et ce qui nous fait le plus vibrer et ce qui nous plaît le plus. Tu vois, c'est vraiment le côté, auteur et créatif de la force.
Ok, trop bien. Du coup, on est d'accord, quand tu dis auteur, c'est ce que moi j'appelle game designer, c'est ça? C'est,
ouais,
c'est la version anglicisée du métier. Top. Et du coup, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu concrètement, en fait, ce que fait un game designer, comment ça fonctionne dans son cerveau, un peu comment c'est... Déjà, un peu concrètement sur le rôle, et puis après on va rentrer un peu dans ce que tu as dit là, de tout ce qui est créer le jeu, tester les règles et tout ça. Enfin, ça m'intéresse énormément.
Trop bien. Sur le truc un peu concret, souvent on fait une analogie avec le monde du livre parce que c'est la plus facile à faire et que les personnes ont un peu le truc plus en tête que le monde du jeu, qui est évidemment un peu plus niche. Mais en gros, moi je vais d'abord créer ce qu'on appelle un prototype, ce qui pourrait s'approcher d'un manuscrit. Et donc c'est vraiment un moment où moi je vais créer mon truc, je reviens sur le processus créatif après, mais je vais avoir un prototype qui est pas illustré, qui est alors il y a des notions d'ergonomie qu'on va évoquer parce que je pense que c'est des choses qui t'intéressent, mais qui est pas qui a pas de ressources que j'ai pour lesquelles j'ai dépensé de l'argent directement. Tu vois, moi je prends des images sur internet, des icônes sur Flaticone, je bricole un truc et puis bah j'ai un prototype qui est jouable et qui est montrable à une maison d'édition. Donc là on est plutôt sur le bout du travail de mon côté, mais on va revenir sur le début du travail juste après. Mais donc moi je m'arrête à ce moment-là sur quelque chose qui est jouable mais qui est ni joli ni vendable en l'état.
Okay.
Et je vais toc-toc frapper à la porte des maisons d'édition en leur disant « Coucou, ça va, j'ai fait un jeu, ça ressemble à ça, les caractéristiques, c'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs et joueuses pour des gens à partir de 10 ans, il y a un petit peu de règles, mais les parties, c'est 45 minutes. Le pitch, c'est... et là, je vais pas t'inventer un pitch à l'arrache, mais ça ressemble à ça, il y a telle mécanique. Est-ce que toi, ça t'intéresse ?» Et à partir de là, moi, je vais frapper à plusieurs portes à la fois, et puis... dans le cas extraordinaire où ça arrive, et ça arrive pas à chaque fois, une maison d'édition va me dire « Ok, bah c'est parti, nous on a envie de le faire, on va passer par une phase de contrat, et derrière, la maison d'édition va avancer sur l'aspect vraiment éditorial, qui là est la recherche et le contact avec un illustrateur ou une illustratrice, qui nous incombe pas, donc on n'est pas des duos créatifs comme ça peut souvent être le cas dans la BD ou dans l'illustration jeunesse. Nous, on est parfois zéro en contact avec notre illustrateur ou notre illustratrice. Il y a des fois où j'ai découvert leur travail en bout de course et j'ai été zéro impliqué sur cette décision-là.
Ok, donc ça veut dire que parfois tu conçois un jeu, on va revenir sur cette partie-là, mais ça veut dire que tu conçois le jeu et une fois que le proto est fait, genre tu le vends à un éditeur et t'as plus la main dessus.
Ouais, tout à fait. Ça dépend des maisons d'édition. Il y a des maisons d'édition avec lesquels on préfère travailler généralement, qui nous implique pas mal dans ces choix-là, dans la discussion, etc. Mais dans tous les cas, c'est elle qui prend la décision finale. Et il y a des maisons d'édition avec lesquelles on essaye d'éviter de travailler, mais des fois, on n'a pas trop de choix.
Okay.
Qui, elle, par contre, tu vois, moi, il y a des jeux, j'ai découvert le look, les éléments de jeu et le prix du jeu au moment où c'était présenté aux boutiques en mode « Ah, et ben, il y a ça aussi qui va arriver bientôt, c'est tel jeu, ça ressemble à ça.
Oh, » wow.
Toi, tu fais un peu genre, ah ouais, j'aurais pas fait comme ça, mais d'accord.
Et justement, du coup, on va commencer par la fin, mais ça veut dire que toi, une fois que t'as le concept du jeu et que t'as une idée en tête, ça veut dire que on s'en fout un peu de ce que t'as en tête. Enfin, ça peut être pris en compte, mais pas forcément.
Ouais, c'est ça. C'est un peu compliqué parce qu'il y a de plus en plus, on est pas mal à essayer de défendre une vision d'auteur et d'autrice et de dire, bah, en fait, non, moi, c'est pas OK que. Mon jeu où le thème c'était les trois petits cochons, tu me disais à la fin, bah en fait moi je préférais le thème les cowboys et les indiens, donc j'ai fait ça comme thème, qui est en plus un thème qui est absolument horrible et qui revient bien trop souvent et que j'aime pas du tout en tout cas. Mais dans l'absolu ça existe encore quoi. Alors c'est le cliché et on tend vers un petit peu moins de ça, mais notamment même sur des développements mécaniques où des fois il y a des petits changements où généralement on est un peu plus impliqué.
Mm-hmm.
Tu vois, si tu me dis, ah bah dans ton jeu j'ai envie que cette carte qui rapportait 2 points elle rapporte 3, généralement il y a une discussion qui passe, mais on a vu des auteurs et des autrices recevoir leurs exemplaires d'auteurs et puis ouvrir les règles et se dire, attends, fais voir qu'est-ce qui a changé. Ah putain, attends, ça je sais pas ce que c'est. Ah ok, ils ont changé ce paragraphe là, d'accord,
bah, ah ouais,
elle marche comme ça. On n'a pas toujours eu et on n'a pas toujours, même aujourd'hui, une place qui est aussi importante que ça, pour le coup.
Okay. Bah, du coup, je te pose une question que je voulais te poser un peu plus tard, mais c'est pour ça que vous avez monté votre propre maison d'édition ?
Non, parce qu'à côté, donc Kaedaman, où on n'édite rien, et à côté, donc j'ai monté Spiral Édition, donc qui est vraiment une maison d'édition classique pour le coup, mais qui a vraiment pour vocation de ne pas éditer les jeux de Théo Rivière. Il y a justement un truc de moi j'aime bien avoir le recul éditorial parce que là je dépeins les moments où ça se passe mal, mais les moments où ça se passe mieux c'est à l'inverse un grand gros bonheur, tu vois, quand la maison d'édition te dit je pense dans les bons exemples c'est j'ai fait un jeu pour enfants qui s'appelle La Maison des Souris, qui est un jeu où on regarde dans une maison en 3D par les fenêtres qui sont éclairées pour essayer de voir des éléments qui sont cachés dans la maison. Quand on présente le prototype avec Élodie Clément, ma co-autrice, ça s'appelle La Cabane de la Sorcière. Ça marche bien, le thème est chouette, mais à un moment c'est Delphine Brennan, notre chef de projet, qui arrive en disant j'ai un peu réfléchi au thème et je vois bien un truc un peu mis en abîme où on regarde dans une maison de souris, on a une vraie petite maison qui est notre objet. Bah ça défonce, en fait l'idée elle est vraiment trop bien, donc nous on fait bah oui évidemment qu'on va aller sur ce terrain là donc ça peut amener des très très belles choses, et à l'inverse j'ai eu des très très belles relations éditoriales sur des choses qu'ont évolué. Néanmoins ouais, quand on monte Spiral, l'idée c'est de garder un peu ce recul là pour moi et de se dire, je vais pas être jugé parti de mes propres prototypes.
Okay.
Et aussi, je vais enlever un peu de responsabilité. Je suis déjà quelqu'un qui se met des fois un peu trop la pression, et donc quand j'ai un jeu qui fonctionne pas, je me dis toujours, bah c'est de ma faute, c'est moi qui ai mal bossé, j'aurais pu mieux faire. Et jamais, peut-être que la maison d'édition, elle aurait pu choisir quelqu'un de mieux pour l'illustration, ou peut-être qu'on aurait pu faire autrement. Alors si je fais tous les éléments, le moment où le jeu il marche pas, j'ai l'impression que je suis la pire des merdes, quoi. Donc je suis pas capable de gérer cette pression.
Ok. Et du coup, si on repart de l'autre côté du prisme, parce que là, on a direct attaqué par la fin, comment tu... T'en as un peu parlé sur la partie consulting, où on arrive avec... enfin, où des boîtes arrivent avec un brief plus ou moins complet, mais comment tu crées un jeu de société de zéro, même si mettons le cas du brief de côté, toi par exemple, tu veux créer un jeu de zéro, comment ça se passe?
Forcément, tu t'en doutes, un point de départ qui est très 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 variable. Historiquement, on a souvent, dans les quelques petites réflexions autour de la création de jeu, opposé deux grands points de départ, qui est le point de départ mécanique et le point de départ thématique. Mais en fait, plus j'avance et plus je vois qu'il y a des dizaines de points de départ qui sont vraiment différents.
Okay.
Mais en tout cas, il y a un truc qui m'impulse, qui dit, j'ai envie de créer jeu et je vais aller dans cette direction. On va rester sur ces deux grands piliers parce que thématique, mécanique, c'est quand même des points de départ qui sont souvent utilisés. Ça peut être, j'ai fait un jeu qui s'appelle SOS Dino avec Ludo Maublanc. Au départ, on se dit, OK, on veut faire un jeu pour enfants parce que on sait qu'il y a de la recherche de la maison certaines maisons d'édition. Et moi, j'adore les dinosaures. OK, on fait un jeu pour enfants où on est des dinosaures. Et ça, c'est notre point de départ. Derrière, on est parti. Il faut qu'on en discute. Et derrière, ça impose plein de petits trucs. Mais là, ça passe vraiment par le brainstorming et un peu par la réflexion de, OK, c'est quoi qu'est-ce que le jeu il va raconter? Comment est-ce qu'on joue? On a déjà un peu une typologie en tête, donc on sait que c'est un jeu pour les enfants, donc ça impose des choses. Il faut pas que ça dure plus d'une demi-heure. Il faut que le matos il soit assez ergonomique pour être manipulé par des plus petites mains. En l'occurrence, nous on part sur un jeu coopératif parce qu'on sait que la coopération c'est une valeur qu'on aime bien, deux, une valeur que les maisons d'édition aiment bien, trois, un truc qui marche bien avec les enfants pour avoir un petit peu plus de règles, un petit peu plus de complexité, parce que généralement ils vont faire leur première partie avec des adultes qui vont pouvoir les accompagner. Un peu moins de frustration aussi directe parce qu'on va être moins dans l'attaque. Une fois qu'on a fait un peu ce canevas, qu'on a discuté, on improvise en fait. Et là, il y a beaucoup de trucs de se dire, je sais pas comment on pourrait jouer. Ah, moi j'aime bien les tuiles. Typiquement sur SOS Dino qui est un jeu de tuiles, à un moment, je pense que quelqu'un a dit non à la conversation. Ah, j'aime bien les jeux de tuiles, vas-y, on pourrait mettre des tuiles dans le jeu. Ah, ça serait sympa. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces tuiles? Ah, on pourrait créer des chemins. Ah ouais, c'est joli, des chemins. C'est un peu classique. Ah, on pourrait faire l'inverse. Au lieu de faire des petits chemins sur lesquels on se balade, c'est de la lave qui vient embêter nos dinosaures. Et donc, au fur et à mesure, ça se remplit et il y a de plus en plus de difficultés. Et donc, tu vois, là, c'est un exemple comme plein d'autres, mais c'est vraiment cette discussion un peu un fil que tu vas tendre au fur et à mesure qui va t'amener vers, ok, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. À l'inverse, ça aurait pu être un fil qui est mécanique. Typiquement, j'ai fait un jeu qui s'appelle Sea of Clouds, qui date un peu, où il y a un système de récupération de cartes qui est au cœur de ma réflexion pendant tout le processus créatif. En plus, je suis tout seul, donc tu vois, j'ai pas ce moment d'échange et de discussion de « Hey, comment on fait? Vas-y, on pourrait faire ça. » Mais je me dis « Ok, j'ai cette mécanique de prise de cartes que j'aime bien, qui est assez originale. Comment est-ce que je peux la sublimer et qu'est-ce qui peut se passer ?» Et derrière, ça devient un jeu de pirate à un moment parce que je dois regarder une random série Netflix qui parle de pirates et je me dis « Oh, les pirates, c'est un peu cool. Vas-y, je vais mettre ça. Ça me plaît bien comme thème. »
Ok. Et là, dans ce que tu me dis, c'est y a deux choses. Du coup, il y a le thème et il y a les règles et il y a la mécanique. Et la question que je voulais te poser, c'est moi, par exemple, je viens du milieu du product design, donc du design numérique, où généralement, pour des questions de s'assurer que ce qu'on fait, c'est pas trop déconnant, on va faire ce qu'on appelle des tests utilisateurs. Je me posais la même question de est-ce que dans le monde du jeu de société, il y a des tests? T'en as un peu parlé tout à l'heure, donc oui, mais comment ça se passe et à quel moment tu dis le test il est bien ou à quel, enfin, j'aimerais bien un peu comprendre comment tu testes un jeu qui est pas finalisé, qui a pas forcément son univers, qui a un univers qui peut bouger, qui a des règles qui peuvent changer, comment ça se passe?
Il y a plusieurs grandes étapes. Là, tu vois, si on est sur ce point de départ et on va imaginer un jeu que je crée pas en co-création, comme ça enlève un peu le co-auteur ou la co-autrice qui aide un peu sur ces étapes-là. Dès le départ, il va falloir tester très très vite. Et on est dans un système itératif dans le jeu de société à mort. Hein, c'est vraiment le pilier de la création à ce niveau-là. C'est donc vraiment, on va tester tout le temps, et on va toujours changer les trucs quoi qu'il arrive après les tests. Moi, sur les premiers tests, généralement très très vite, parce que j'ai été un peu éduqué à ça, je fais un prototype que j'appelle moche, où tu vois, soit j'ai des bouts de papier sur mon bureau et je vais griffonner des trucs, soit je vais faire 5 cartes alors que je sais qu'il en faut 2000 à la fin, soit parce que, j'ai une grande motive ce jour-là, je vais quand même prendre un peu des pictos, faire un truc un peu sur mon ordinateur, l'imprimer et le découper. Mais un des trucs importants à ce moment-là, c'est je vais vraiment vite parce que je vais tester tout seul. Okay. À ce moment-là, je vais un peu manipuler les éléments de jeu que j'ai créés pour voir quel est mon premier ressenti, est-ce que ça marche, est-ce que c'est complètement déconnant et en fait, il faut que je m'arrête là. Et parfois même au moment où je suis en train de le créer, tu vois, je suis en train de griffonner des effets de cartes sur des bouts de papier, je me rends compte que c'est nul et je m'arrête là. Et des fois, c'est frustrant parce que je viens de faire 50 cartes pendant une après-midi. Je les ai découpées, j'ai écrit des trucs. Et à la 51e, je me dis, Ah, c'est nul. Ah ouais, c'est vraiment nul. OK. Et là, soit j'arrive à le sauver, ce qui arrive, soit bah, ça part à la poubelle et tant pis. Et donc ça, c'est la première grande étape. On va imaginer ce moment où je suis en train de jouer un peu tout seul et je me dis, ouais, ça marche. Ça me plaît bien. C'est parti. Il faut que je continue. Je vais pousser un peu le concept. À ce moment-là, je vais refaire une nouvelle passe et je vais refaire un nouveau prototype. Souvent, là, je prends un peu plus le temps de faire un peu d'ergonomie, un peu de graphisme, de choper des images sur le net, de réfléchir un peu les formats des éléments pour que ça soit un peu plus agréable à manipuler. Mais là, je vais toujours vite.
Pardon, je te coupe, mais du coup, ça veut dire que là, t'es dans le test de quoi? T'es dans le test du visuel de...
Non, c'est plus... en fait, je sais que à la fois pour moi et à la fois pour mes testeurs-testeuses qui vont rentrer pas longtemps dans la boucle, s'il y a rien, ça va être dur de se projeter, en fait.
Oui, oui. Ok, mais tu vois, là, par exemple, tu dis, je teste une carte, je sais que c'est un exemple en homme, mais tu testes une carte, au bout de la 51e, tu dis, ah oui, en fait, non, ça va pas le faire. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, t'es plus dans l'esthétique ou plus que dans la mécanique, en fait.
Non, je suis 100% là, toujours sur, tu vois, les cartes que je teste à ce moment-là, ça peut être un papier blanc sur lequel j'écris piocher trois cartes. Il y a encore vraiment rien d'esthétique et c'est encore hyper annexe.
Ok.
Parce que ça va, c'est ce qui va bouger le plus. Et au final, il y a un truc un peu de poudre aux yeux. C'est-à-dire que si à la fin, mon jeu, il est tout moche mais excellent, ça va quand même marcher. Je vais sûrement trouver quelqu'un pour l'éditer. Si par contre, j'ai fait le plus beau proto du monde, il est sensationnel. Mmh. Tu vois, j'ai soigné mes pictos pendant des heures. J'ai fait de l'impression 3D pour que ça soit canon. Mais que le jeu, il est un peu bof. Peut-être que je vais trouver une maison d'édition moyenne qui va dire ouais, ok, pourquoi pas, mais dans l'absolu, a priori, ça va pas suffire pour réussir à convaincre.
Ok.
Donc on est sur cette deuxième version de proto qui là est un poil moins moche et ressemble un peu plus à un truc, et là je vais tester en circuit hyper fermé, typiquement avec mon épouse qui a un peu l'habitude de tester tous mes protos un peu naze et qui est une bonne cliente pour qui je dise alors pardon, excuse-moi, là j'ai écrit 3 mais en fait c'est 4 et la fin de partie, je sais pas quand est-ce que c'est, mais au moins on va dire ouais, c'est fini, vas-y, t'as gagné ou j'ai perdu, et on regarde un peu ça, ou avec des potes co-auteurs ou co-autrices avec qui on va pouvoir aller un peu vite et tester et qui arrivent à faire abstraction de pas mal d'éléments. Et là, encore une fois, il y a un espèce de cut de des fois, bah en fait, c'est naze et ça s'arrête là. Et des fois, c'est cool et ça continue. Si ça continue, c'est là où j'arrive un peu à l'avant-dernière version des prototypes où là, je vais chiader justement pas mal l'ergonomie, un peu le graphisme parce que moi, ça me fait kiffer et que c'est important pour moi, mais c'est pas si important que ça dans l'absolu. Mais c'est là où je fais vraiment un joli prototype puisque je vais tester avec des personnes extérieures. Okay. Alors, c'est pas des randoms. Moi, j'aime pas trop tester avec des gens que je connais pas du tout parce que ça me met... je suis un peu trop dans l'émotion dans ces moments-là, donc ça me met un peu trop en péril de tester avec des gens que je connais pas. Et parce qu'il y a aussi un peu une formation de testeur-testeuse presque à avoir, donc les gens autour de moi avec qui je teste régulièrement ont un peu l'habitude. Donc assez simplement, j'ai un petit groupe WhatsApp d'une trentaine de personnes qui sont plutôt des copains et des copines, pas des gens que je connais pas du tout, et puis je mets un message disant « Hey, coucou, quelqu'un veut venir jeudi prochain chez moi, il me faut idéalement 5 personnes. Le deal est hyper simple, c'est je fais à manger, tout le monde mange, on passe une bonne soirée, c'est chouette, et puis on fait 2 ou 3 protos à la fin de la soirée pour voir un peu ce que ça donne et comment ça fonctionne. Et à ce moment-là, là, je suis plus, moi, je vais pas jouer, je vais être en observateur extérieur, et puis je vais regarder ce qui se passe, est-ce que les gens regardent leur téléphone, est-ce que cette règle que j'ai l'impression est limpide, on va me demander de la réexpliquer 5 fois, est-ce qu'il y a un petit élément qui bute, est-ce qu'il y a quelqu'un qui gagne avec 50 points d'avance, tous ces trucs-là.
Okay.
Et là, on est parti pour vraiment de l'itération à mort. Alors là, encore une fois, le projet peut mourir, mais c'est un peu moins fréquent. Parce qu'après, j'ai senti qu'il y avait un truc, donc c'est rare que je me dise, ouais, non, je vais pas insister un peu. Et là, on est vraiment sur de l'itération et de l'itération, de se dire, je vais changer 20 cartes, c'est reparti, puis on va retester 2 semaines plus tard, puis je vais retester, puis c'est parti, on continue. Avec parfois des gros changements jusqu'au bout, parce que des fois, tu te rends compte que cette mécanique qui était centrale depuis le début et qui te semblait super bien, en fait, elle a l'air plutôt nulle, et donc, tu abandonnes des gros morceaux du bébé, et puis tu reviens en arrière, et tu bouges jusqu'à temps que t'aies quelque chose de chouette.
Ok. Et justement, quand est-ce que tu détermines que c'est quelque chose de chouette? À quel moment tu, parce que, on pourrait partir du principe que tant que c'est pas parfait, faut aller jusqu'au bout, mais j'imagine qu'à un moment, tu vois, c'est compliqué, ou alors, je sais que des fois, il y a des jeux, ils ressortent en édition 2 ou 3 avec une amélioration des règles. Mais du coup, toi, à quel moment il est où le curseur, en fait, dans toute cette réflexion?
C'est hyper bizarre. Et c'est une question qui revient souvent parce qu'il y a pas mal d'auteurs et d'autrices qui se questionnent un peu sur quand est-ce que je peux aller toquer auprès des maisons d'édition avec mon prototype pour le montrer. Et je sais pas, c'est un espèce de gut feeling hyper un peu magique, tu vois. Il y a un truc de, et j'ai fait des jeux. Après la deuxième partie, je me suis dit, ok, bah je vais le montrer à des maisons d'édition et c'est parti, quoi.
Okay.
En ayant fait une itération et demie et en ayant un truc qui me plaisait suffisamment et ça l'a fait. Et j'ai des jeux, on a fait, j'ai historiquement avec Maxime Rambourg, qui est un mec avec qui je travaille énormément, on a un jeu qu'on adore. Ça fait 6 ans qu'on travaille dessus. Je pense qu'on a fait 30 versions. Et à chaque fois, quand on a fini une version et qu'on a joué un peu, on s'est dit, je sais pas, c'est pas assez bien, ouais, c'est pas assez bien, ok, là, si on continue. Et on n'y arrive pas, tu vois, à s'en sortir. On a fait peut-être 15 jeux ensemble entre temps, ce qui est bien parce que ça nous a rapprochés beaucoup.
Ouais.
Mais il y a ce truc de celui-là, on n'y arrive pas, et à chaque fois qu'on a un truc qui est peut-être présentable, peut-être qu'on trouverait une maison d'édition et que ça serait super, on le sent pas, en fait, et on se dit que ça va pas le faire. Et comme c'est quand même aussi un truc de... C'est un métier où t'es vachement confronté à l'échec régulièrement, à la fois dans tout ce processus-là, puis à la fois quand tu présentes le proto aux maisons d'édition, bah souvent la réponse est plus souvent non que oui, en termes de ce que vous allez l'éditer. Moi, c'est un truc qui me plaît pas non plus, donc j'essaye d'arriver avec des prototypes suffisamment finis et avec lesquels j'ai suffisamment de confiance pour que, idéalement, j'ai plutôt des oui que des non au moment où je le présente.
Du coup, ça me permet d'enchaîner avec la question que je voulais te poser ensuite, c'est Il y a un moyen de créer les bonnes mécaniques de jeu, tu vois. Est-ce qu'il y a un peu une sauce secrète pour se dire, à tous les coups, ça marche?
Non, pas trop, ça serait trop facile.
Ah, je me doute.
J'aimerais, je détesterais te dire oui en même temps. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même des recettes. Et donc, il y a un peu un truc de, quand t'as un peu l'habitude, et je le vois aussi chez certains de mes collègues, y a des jeux qui se ressemblent un peu, il y a des trucs où tu te dis, ah ouais, ok, tu t'es pas foulé, t'es parti dans telle direction. Et en même temps, ça refait pas forcément des mauvais jeux. Il y a aussi une forme de répétition régulière de cycles, à la fois générationnelle de joueurs et joueuses et à la fois générationnelle d'auteurs et d'autrices, je pense, de se dire, ok, bah ces jeux-là, on les voyait plus et on les revoit parce que il y a un truc de c'est reparti, c'est de nouveau à la mode, ça revient. Ou il y a aussi régulièrement un renouvellement des joueurs et joueuses avec des nouvelles personnes qui découvrent le hobby. Et donc forcément, ces gens-là sont des fois absolument extatiques devant des trucs où les vieux briscards, dont je fais pas encore trop partie, mais j'en fréquente beaucoup, disent « Oui, ça a déjà été fait en 2007 par telle personne, machin. » Et donc, le milieu est assez mouvant comme ça, et suffisamment mouvant pour qu'il n'y ait pas de recette secrète. Après, ce qui est sûr, et je pense que c'est un des trucs qui fait que j'ai eu peut-être un peu plus de réussite que d'autres auteurs et autrices, au moins sur le nombre de jeux édités, c'est important, je pense, d'étudier, de réfléchir et de ressentir un peu le marché. De regarder un peu ce qui se passe, de voir un peu ce qui existe et d'avoir une bonne culture ludique qui va un peu au-delà de la casquette du game design, parce qu'on est presque dans un truc de benchmark plus que de création, mais voir un peu quelles sont les grandes tendances, jouer beaucoup, se renseigner un peu, je crois que c'est un truc qui m'a aidé aussi par ma casquette d'avoir bossé dans des maisons d'édition, d'arriver avec des projets qui soient au moins cohérents et un peu solides à ce niveau-là.
Et du coup, toi, pour tu l'as dit, t'as fait à peu près 70 jeux, comment tu... En voyant le chiffre, j'étais là genre, mais comment tu fais pour renouveler tes idées, pour renouveler ta créativité, pour que tu vois, d'un côté on soit pas dans la production de jeux massive où en fait c'est la machine qui tourne et c'est tout le temps le même truc qui sort, comment tu fais d'un côté pour te renouveler, de l'autre côté pour pas tomber sur le syndrome de la page blanche pour avancer?
J'ai deux mini cheat codes que je peux partager parce que j'aime bien les partager. Le premier, et moi, il m'aide vachement, c'est que je fais énormément de co-création.
Okay.
Et en fait, faire du co-autorat, travailler avec des auteurs et des autrices différentes, ça amène un mix et un brassage d'idées qui fait que, le jeu, je l'aurais pas fait comme ça tout seul. Et donc, fondamentalement, c'est pas le même jeu. Et là où, des fois, moi, je peux un peu, effectivement, avoir des réflexes, des petits automatismes de créa, là, on va me dire, moi, j'aime pas ça, vas-y, je vais aller dans telle direction et ça va amener des choses assez différentes. Et le deuxième, c'est le jeu de société contemporain, c'est un domaine qui est hyper vaste et qui va dans plein de directions. Et donc, fondamentalement, comme moi, j'ai un intérêt pour un peu toutes les directions différentes. Tu vois, j'ai fait un jeu qui s'appelle Mon premier jeu de Papa Fourmi, qui est pour les 3 ans. Et je vais le mettre sur une espèce de grande ligne que vous voyez pas parce que c'est un podcast et que je suis dessiné avec les mains. Mais qui va jusqu'à, j'ai fait un jeu qui s'appelle The Loop, qui est un jeu coopératif de partie de 1h15 avec une demi-heure de règles, hyper dur à gagner, assez complexe en termes de jeu. Ou encore sur une des autres branches, il y a pas longtemps, j'ai fait un crowdfunding pour un jeu qui s'appelle The Heist, qui est un jeu de rôle où on fait des braquages avec des cartes. Fondamentalement, quand je fais le Papa Fourmi et The Loop, je peux pas prendre des mêmes réflexes, quoi. Il y a un truc de se dire, ok, ça va pas marcher. Et en même temps, et paradoxalement, bah, d'avoir un côté un peu multicéphale comme ça et d'aller dans plein de directions, ça fait que des fois, je peux me dire, ah, attends, dans les jeux pour enfants, on n'a pas trop vu ce truc qu'on a vachement dans les jeux pour adultes ou, ah, dans le jeu de rôle, il n'y a pas ce truc qui est très board game ou inversement. Et donc, le fait d'aller un peu dans plein de directions différentes, m'aide, je pense, des fois à me renouveler pour le coup.
Ok. Et du coup, j'avais une autre question dans cette continuité-là, c'est que dans le design numérique, tu as aussi un peu ce truc de se dire quand il y a une tendance ou quand il y a une façon de faire qui est établie, je sais pas, genre on va prendre Uber par exemple pour commander, tu donnes ton départ, tu donnes ton arrivée. Tu vas pas recréer une nouvelle app où tu fais, je sais pas, ouais, tu donnes juste une distance et puis après le taxi se débrouille pour te trouver. Comment tu fais aussi dans les jeux de société pour te dire, il y a des règles qui existent, il y a des composantes, des mécaniques qui existent déjà, on va pas réinventer la roue, mais en même temps, si on les pompe complètement, ben en fait, il y a rien d'original. Comment se crée la balance pour te dire, les gens peuvent facilement s'identifier à ça, mais en même temps, le jeu est différent.
Tu ne le sais peut-être pas, mais Design Journeys est un podcast que je produis sur mon temps libre et de manière totalement indépendante. Alors si tu souhaites m'aider dans cette aventure, sache que j'ai ouvert une page KissKissBankBank sur laquelle tu peux faire un don pour soutenir l'émission. Cela m'aidera à payer les frais d'hébergement du podcast, du site internet, mais également à préparer de nouveaux projets que j'ai en tête depuis un petit moment. Si ça t'intéresse, tu trouveras le lien dans la description. Allez, maintenant je te laisse avec la suite de l'épisode.
Il y a un peu un truc déjà de... À un moment, j'ai enlevé un peu de pression par rapport à ce que j'avais au départ. Quand j'étais au tout début, à chaque fois que je créais un proto, je me disais, bah, est-ce que c'est le nouveau Seven Wonders, qui est un de mes jeux préf et qui a amené beaucoup d'innovations? Je me disais, bah non. Est-ce que ça vaut le coup que je le fasse? Bah, je sais pas, c'est pas le nouveau Seven Wonders. Et souvent, j'ai cuté des projets un peu comme ça en me disant, ouais, bah, je sais pas, c'est pas le nouveau jeu qui va tout exploser, qui va être génial. Et quand je me suis dit, ah, mais en fait, moi, je joue à plein de jeux qui sont pas les nouveaux Seven Wonders. Et quand je joue, je me dis, putain, c'est cool, je m'amuse, je passe un super moment, c'est chouette. En fait, j'ai le droit de les faire, ces jeux-là. En fait, c'est, tant pis si tous mes jeux sont pas des best-sellers ou des trucs qui vont être extrêmement disruptifs et amener une innovation très, très forte sur le marché. Si moi, je juge que les jeux sont satisfaisants et que je m'y amuse, ok, bah, je vais essayer d'aller au bout et on verra ce qui se passe. Et après, les jeux sont quand même aussi beaucoup d'assemblages de plein de choses différentes. Comme on est rarement, même si forcément il y en a, et évidemment ça sera une surprise pour personne, c'est les plus durs à faire, mais comme on est rarement sur une seule idée extrêmement forte et centrale, bah des assemblages de plein de petites idées mis un peu différemment, on rapproche souvent le game design de la cuisine, et je suis assez raccord avec ça. Et tu vois, si demain je te fais des bolos et que j'ai enlevé la viande hachée et qu'à la place j'ai mis des haricots et que bah j'avais pas la bonne forme de pâte et j'ai mis un autre truc, mais j'essaie de faire en sorte que ça fasse illusion et que ça soit chouette, bah ça aura peut-être un peu le goût de la bolo, mais tu diras, ah, c'est différent et c'est hyper bon quand même. Ou alors peut-être ça sera horrible et dans ce cas j'aurais raté mon boulot, mais tu vois, il y a quand même
des tests avant, donc il y a pas de problème.
C'est ça, normalement j'aurais goûté plein de fois ma bolo au haricot blanc en me disant, ah, vraiment c'est pas terrible. Et mais tu vois, il y a vraiment cette dimension un peu de d'assemblage de choses différentes, ce qui leur donne de la pertinence et de la légitimité.
OK. Et maintenant, là, on a vachement parlé de tes projets, on va dire, perso ou avec des co-auteurs, co-autrices. Quand tu as des clients qui viennent te voir pour créer des jeux, donc tu as parlé des briefs tout à l'heure, et c'est un peu le truc que j'ai envie de creuser, c'est de se dire, là, quand tu as une boîte qui arrive avec un brief, à quel moment tu te dis, ça peut être une bonne idée ou genre ça va pas le faire, et aussi, à quel moment tu te dis, genre, en fait, il n'y a pas de bons mécanismes ou de bonnes règles pour aller dans leur direction, ou à quel moment, est-ce que ça marche à tous les coups, est-ce que des fois ça marche pas, pourquoi?
Nous on a un luxe avec Kaedama, c'est on cherche pas beaucoup de projets, à la fois parce que on est un peu des flemmards, à la fois parce que c'est presque un, tous les quatre aujourd'hui on vit de nos droits d'auteur de projet en tant que qu'auteur à côté.
D'accord.
Et Kaedama nous rémunère en partie, mais on le fait plus parce que bah, c'est cool de faire des trucs ensemble et que c'est chouette de faire des beaux projets. Okay. Ce qui fait qu'on dit régulièrement non à des trucs en se disant soit oh là là le client ça va être l'enfer, on va pas s'en sortir, va falloir facturer par Chorus Pro, donc comment est-ce qu'on fait pour accepter de passer par la plateforme la plus compliquée de facturation du monde, oui ou non. Et parfois on se dit ok, bah en fait nous on se sent pas légitime, on n'a pas d'idée vis-à-vis de ça et on va pas le faire. C'est le cas notamment sur les licences, ce qui est vraiment le truc qui revient le plus. Je sais pas si tu viens me voir demain en me disant j'ai la licence Twilight, je suis vieux, ça se sent, mais j'ai la licence Twilight. Je vais dire, bah en fait, j'ai pas vu les films, j'ai pas lu les bouquins. Je sais pas exactement de quoi ça parle, à part il y a des vampires et des loups-garous. Là, comme ça, je peux pas te faire un pitch de game design pour dans 3 semaines. Éventuellement, si jamais on se dit, ouais, ça a l'air un peu cool, ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder les films ou lire le premier bouquin en me disant est-ce que ça m'inspire ou pas.
Okay.
Les collègues aussi, évidemment, et puis on va en discuter. Mais souvent, si on le sent pas, on va dire non dès le départ. Et peut-être qu'on a loupé des belles opportunités, tu vois, sur des licences ou sur des briefs, en se disant, je sais pas, on n'y arrive pas, ou on a trop de boulot en ce moment. On sait aussi qu'on peut pas accueillir énormément de jeux dans le pipe en même temps.
Tu me surprends.
Comme il y a un truc avec, alors moi je suis le mauvais exemple, c'est plus con avec Kaedava, parce que moi j'ai tendance à faire trop de trucs à la fois. Donc là je dois avoir une douzaine de projets un peu en parallèle dans ma tête. Avec Kaedama, on doit en avoir 1, 2, 3, 4, et je pense que 4, c'est notre grand maximum en parallèle, parce qu'autrement, on s'en sort pas, quoi. On n'y arrive pas.
Ouais, mais et du coup, toi, là, les 12 projets, tu les priorises comment? Parce que ça doit être mentalement.
Je vois quand les gens me relancent. Je priorise à la dernière personne qui m'a engueulé par mail parce que j'étais en retard. Ouais. Ou autrement, non, il y a aussi ce côté de, comme c'est des étapes de création qui sont parfois différentes.
Mm.
Tu vois, là, je bosse avec Corentin, on bosse sur un projet qui s'appelle Fortune, qui est un jeu qu'on présente aux maisons d'édition. Bah là, on est à un moment où il est chez les maisons d'édition, on attend qu'elles nous disent si elles le font ou pas.
Okay.
Bah techniquement, bah j'ai plus rien à faire depuis que je l'ai livré. Et puis bah avec Antoine, on bosse sur un projet qui s'appelle Tabi depuis 5 jours. On est au tout début de la création. Donc il y a un truc de, on s'envoie plein de messages, on discute, on fait de la théorie de game design et on fait pas grand-chose on commence à faire un peu les premiers protos, à tester des choses, mais on est encore sur le début. Ce qui fait que le moment où moi je suis un peu bloqué sur ce truc-là ou alors je suis frustré parce que j'ai pas de réponse des maisons d'édition. Ah bah je vais passer sur un autre projet, je vais regarder un peu ce qui se passe et puis je vais continuer. Et moi j'ai besoin vachement de passer d'un truc à un autre pour éviter les gros murs de frustration quand j'y arrive pas.
Mm.
Si je suis bloqué par un truc où je trouve pas l'idée pour que le jeu soit meilleur ou que il y a un problème qui a été identifié, j'arrive pas à trouver une solution. Généralement ma réponse à ça c'est me dire ok bah je vais faire un autre projet en attendant et puis à un moment je vais revenir 2-3 jours plus tard avec des idées plus claires et puis normalement je trouve une solution. Dans le scénario idéal, hein. Ça ne marche pas tout le temps. Mais
ouais, et du coup, dans le scénario idéal, parce que tout à l'heure, tu parlais d'un jeu où ça fait 6 ans et tu n'as toujours pas trouvé la fin, mais un process de création de jeu, ça prend combien de temps à peu près?
C'est hyper aléatoire, là, pour le coup. Ouais. Généralement, c'est rare de ne pas avoir un truc montrable au bout de 3-4 mois, je pense.
Okay.
Et là, tu peux commencer à le présenter à des maisons d'édition. Idéalement, évidemment, et il y a plein de contre-exemples, hein. Il y a à la fois les jeux, et moi, c'est mes préfs, et c'est évidemment ceux qu'on fait le moins. J'en parlais un peu tout à l'heure, mais il y a des jeux à idées. Vladaj Vatil, qui est l'auteur de Codenames, dit en interview que Codenames, il l'a fait en une soirée. Ça m'étonne pas trop, en fait, parce que c'est un peu des jeux où, bah, t'as l'idée, et puis tu regardes, et des fois, tu te dis, en fait, non, l'idée, elle était naze, et ça marche pas du tout.
Mm.
Des fois, tu te dis, ah, putain, mais en fait, ça marche, quoi, l'idée, elle est bien. Et évidemment, derrière, bah, il faut creuser, mais, en fait, si Codenames, en une soirée, il a posé 30 mots, il a testé 3 fois et que ça marchait, c'était suffisant pour aller voir la maison d'édition et leur dire « bah j'ai fait ça ». Et à la fois, il y a des jeux plus de travail, qui sont des jeux multi-mécaniques où il y a plein de choses qui se mélangent. Ça, fondamentalement, bah, quand t'as l'idée, après, il faut le faire, quoi.
Ouais.
Si demain, tu te dis « je vais faire un jeu dans lequel il y a 50 cartes à effet », bah, tu peux pas te dire « ok, bah, j'attrape des morceaux de papier, on joue avec et on dit que c'est ça les effets ». Il faut que tu tapes le moment où il faut trouver 50 effets différents qui sont bien. Et ouais. Ça, fondamentalement, c'est plus long et puis bah, tout tester, ça prend un peu plus de temps. Mais 3-4 mois, ça me paraît pas débile, sachant que moi je suis à temps plein, donc il y a aussi un truc de, il y a pas beaucoup d'auteurs et d'autrices qui ont pas un boulot à côté, donc fondamentalement c'est plus long quand tu dois t'occuper de ta famille, t'occuper de ton travail et gérer des choses à côté. Et après le reste est aussi assez variable, mais ce que je te disais, à partir du moment où c'est présenté, la présentation et la recherche d'un éditeur, ça peut aller assez vite, notamment parce qu'il y a des grands moments clés dans l'année, les grands festivals où on va beaucoup présenter les jeux. Et généralement, c'est des moments où on a des réponses assez vite, mais c'est rare de pas avoir un truc qui se débloque dans le mois et demi après la présentation.
Ouais, donc finalement, c'est assez rapide.
Et derrière, bah, y a tout le processus éditorial qui, lui, peut être infiniment long. Entre autres, parce que la plupart des maisons d'édition de taille moyenne ont des jeux dans le pipeline en continu. Là, typiquement, tu vois, il y avait le Festival de Cannes le mois dernier, qui est un bon moment de présentation. Les maisons d'édition glissaient généralement le « Ah bah, pas de souci, nous, si ton jeu nous intéresse, il sera édité pour 2026 », ce qui est à peu près raisonnable. Tu vois, 2026, j'accepte que ça soit dans 2 ans, c'est à peu près OK.
OK, wow. Et en 2 ans, le jeu que t'as t'as conçu, il n'y a pas moyen qui, je sais pas, qui passe les tendances, qui en fait, tu te rends compte que ça marche pas, ou tu vois, parce que 2 ans, c'est long, en fait.
C'est la crainte perpétuelle.
Ouais.
Moi, c'est le truc qui me fait le plus peur. Soit que le jeu sorte et qu'il fasse un peu daté. Et j'ai vu des jeux sortir où tu te dis, ah, là, le développement, à mon avis, ça s'est mal passé et ça a pris du temps parce que ça sort et c'est déjà un peu un vieux jeu. 2 ans, généralement, ça va. Les tendances se chapeautent quand même un peu doucement dans le jeu de société, donc ça va à peu près. Ce qui me fait le plus peur, c'est qu'il y a un autre truc qui sort qui est trop proche. Et ce qui fait que mon jeu, qui était un peu intéressant, un peu innovant quand je le signe en 2024, bon, en 2026, c'est un peu genre, ah ouais, ça arrive après truc.
Ah oui.
Et ça, c'est, t'as pas de contrôle. Donc,
c'est même pire.
Ouais, ça, c'est horrible. Hein. Ouais. Vraiment, quand t'as le sentiment d'être le premier, et qu'au final, tu l'es pas, ah, horrible.
Ça t'est déjà arrivé?
Pas directement, mais on a eu très très peur justement sur la Maison des Souris, là, ce jeu pour enfants, on regarde dans la boîte, parce qu'il y a un éditeur italien, Cranio Création, qui a sorti un jeu qui s'appelle Mystery House, et quand ils ont présenté les protos, bah t'as une grande maison, tu regardes par des fenêtres, et on s'est dit, oh, c'est le même jeu, on est mort. Surtout que la Maison des Souris est un jeu qui repose sur une mécanique et demie, quoi, il n'y a pas grand chose, donc si là c'était trop proche, on pouvait pas faire en sorte que ça se ressemble pas. Et au final, quand on a creusé, c'est un escape game, tu regardes, tu te donnes des indices, okay. C'est pas du tout un jeu pour enfants, donc on était assez loin. Mais tu vois, il y a eu des petites comparaisons au moment de la sortie qui étaient un peu genre, ah, fait chier, on promis, quand on l'a fait, on n'est pas inspiré par ça, parce que ça existait pas, quoi.
Et si on revient sur les projets pour lesquels, sur lesquels tu travailles pour d'autres boîtes, tu dirais que tu préfères quoi? Tu préfères quand on t'implique les contraintes d'une boîte extérieure ou quand tu t'impliques toi-même tes propres contraintes sur les jeux sur lesquels tu bosses?
J'aime vraiment bien les deux, aussi parce que bah, les contraintes, ça te donne un cadre et ça te donne aussi un cadre de temps que moi j'aime bien, ce côté, alors mes collègues râleraient parce que généralement eux ça les stresse beaucoup et ils détestent ça, mais le côté de ok bah il faut que le jeu il soit fini pour mi-mars, bah en fait d'un coup tu te dis bah ok j'ai pas le temps en fait, j'ai pas le temps d'explorer toutes ces pistes que j'aurais envie d'explorer. Qui rendraient peut-être le jeu meilleur à la fin, mais qui vont prendre du temps, et je suis obligé d'être hyper sharp, hyper concentré sur un truc, et je vais dans telle direction. Aussi parce que c'est rare qu'on ait énormément de contraintes, tu vois, au final, à part le public cible, le format de boîte, et généralement des grandes contraintes thématiques, notamment sur les jeux à licence, il n'y a rien, tu vois, là, en ce moment, on fait un jeu Blue Lock, qui est une licence de manga et d'anime sur le foot. Enfin, on savait juste que, fondamentalement, vu le public cible, et c'est même pas l'éditeur, même si on en parle avec elle, c'est même pas notre éditrice qui nous l'impose, on sait que un jeu de foot qui parle d'un manga de foot, il faut pas que ça soit un jeu de 1h30 avec 25 pages de règles, quoi. Le public cible, il sera pas là, quoi. Faut pas que ça soit un jeu de figurines à 80 balles, c'est impossible. On sait qu'il faut que ça soit plutôt un petit format, que ça dure plutôt 15-20 minutes, qu'on va s'adresser à des ados, et qu'il faut que le jeu il soit plutôt fun que un intense jeu de stratégie. Et ça, moi, tu vois, d'avoir ce petit moment où tu réfléchis un peu, tu te dis, ah, attends, c'est quoi un lecteur ou une lectrice de Blue Lock? Ok, c'est ça. À quoi ça peut ressembler un jeu qui plairait à cette personne? C'est ça. Ok, ben on va dans telle direction de design. Moi, c'est dans les trucs que je préfère, quoi. C'est vraiment hyper stimulant.
Tu parles d'ailleurs avec des gens, je sais pas, dans des phases de... Tu parlais tout à l'heure de phases de benchmark sur d'autres jeux, mais tu fais un peu des phases de, je sais pas moi, de recherche de public cible où tu vas justement discuter avec ces gens qui lisent ce manga ou...
Pas tant. Là, pour le coup, sur ces projets de licence, on n'a pas trop le temps et on n'a pas spécialement l'occasion. Après, on a l'avantage d'être 4 et d'avoir 2 pères de famille dans la team. Donc, notamment pour les jeux pour enfants et leurs enfants grandissent, mais et aussi pour le public ado, bah en fait, typiquement, Corentin et Antoine ont tous les deux un fils qui lit Blue Lock. Donc, il y avait un côté de, on pouvait en discuter de, ah ok, ton fils, il aime bien ça, d'accord, mais on va essayer de faire évoluer pour que ça aille dans cette direction-là. On essaie d'être un peu à la page, en tout cas, de voir un peu ce qui se passe, mais on n'a pas trop l'occasion de rencontrer du monde. Par contre, on a plein de fois l'occasion de rencontrer les joueurs et les joueuses sur les festivals et de discuter avec eux de qu'est-ce qu'ils aiment bien, c'est quoi les jeux qui plaisent, etc.
Ok. J'ai eu l'impression de me faire espionner au moment où j'ai préparé l'émission parce que quand j'ai commencé à chercher des infos sur toi, j'ai commencé à avoir des recos YouTube sur des gens qui créent des jeux. Et il y a un truc qui m'a un peu mindfuck, c'est des mecs qui créent des jeux via l'intelligence artificielle. Il y a un mec qui a commencé à faire, regarde, j'ai pris tel jeu, je crois que c'était le Loup-Garou, et il a fait, bon, je l'ai adapté à ma famille, voilà, j'ai créé des images et tout, et j'étais genre complètement mindfuck. Et je suis obligé de te poser la question, en tant qu'auteur de jeux de société, est-ce que toi, tu utilise l'IA ou comment tu vois l'évolution de ce truc-là, parce qu'on en parle vachement pour, par exemple, les scénaristes à Hollywood qui peuvent se faire remplacer du jour au lendemain. Est-ce que c'est un truc que toi, tu crains Ou alors, c'est genre une opportunité de fou pour toi?
Ni l'un ni l'autre, je crois. À la fois de... Nous, on en parle beaucoup dans le milieu sur les IA génératrices d'images.
Ouais.
Parce qu'on a vu arriver des premiers jeux qui étaient illustrés par des IA.
Ah ouais
ouais, il y a, oh. y a plusieurs sorties qui sont arrivées de trucs... alors qui étaient illustrés et retravaillés par des humains derrière, mais qui avaient quand même ce côté... hyper glauque de se dire que c'était une machine plutôt que des humains derrière qui avaient bossé. En tout cas, hyper glauque pour moi, ça me met assez mal à l'aise sur ce que ça raconte. Et il y a plutôt une grosse levée de bouclier du milieu sur tout ça. En partie parce que c'est un petit milieu et que c'est un milieu très créatif et que c'est un milieu qui génère pas non plus énormément d'argent. Donc il y a un peu un truc de se dire, bah en fait, vas-y, on a pas besoin de couper ces personnes-là qui font tel métier pour générer plus de fric. Il y en a déjà pas beaucoup, autant le partager, c'est plus chouette. Donc il y a déjà un peu une montée de bouclier sur cette partie illustrative. Sur la partie game design, pour l'instant il y a pas grand chose. Effectivement, j'ai vu passer la vidéo YouTube que tu décrivais parce qu'on se l'est fait passer entre nous, les auteurs et les autrices. Et là c'est rigolo que t'en parles puisque aujourd'hui il y a une maison d'édition qui a partagé le fait qu'ils avaient reçu un mail qui disait ah bah j'ai créé un jeu à partir d'une IA, je veux vous le soumettre. Et je sais plus, c'est en anglais, mais il y a vraiment un truc en plus de pour pas vous sentir obligé de bosser avec des silly designers, il y a un truc un peu de rouste des auteurs assez désagréable. Et tu vois la maison d'édition le partage en disant ça commence et j'ai même pas répondu, c'est mort quoi, hors de question quoi. Donc j'ai pas trop peur de que ce milieu qui est très amical et qui est très lié entre eux arrive à faire bloc sur ça.
Et du coup, aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure, j'ai envie de repartir un peu de la partie édition. Toi, ton rôle de game designer, comment tu l'appliques ou en tout cas comment ça te sert dans ton rôle d'éditeur? C'est-à-dire que comment dire, tu es éditeur, tu ne veux pas éditer tes propres jeux, ça je peux comprendre. Il y a des gens qui viennent avec leur jeu, avec leur mécanique. Toi, à quel moment tu arrives en disant est-ce que vous avez pensé à ça pour améliorer tel jeu ou est-ce que tu te dis juste moi je viens, j'édite et je ne touche pas au produit final?
Non, pour le coup, on a à cœur avec Spiral de faire du développement, donc vraiment d'accompagner les auteurs et les autrices et d'essayer d'amener les jeux un peu plus loin que ce qu'on nous a proposé quand c'est nécessaire. Tu vois, là, on est encore une jeune maison d'édition, on a sorti que deux jeux. Et typiquement, le premier District Noir, on a eu besoin de rien faire. Les deux auteurs avaient fait le jeu à 100% et quand on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait modifier, on a fait globalement rien, tout est super. Donc on était pleinement satisfait. Et notre deuxième jeu Boréal, il a fallu qu'on mette un peu plus les mains dans le cambouis avec la particularité que l'auteur est japonais et donc on n'a pas eu de contact extrêmement direct avec lui. Il y a une philosophie de game design un peu chez les japonais de ils perçoivent, en tout cas sur des généralités, mais c'est ce qu'on a ressenti en discutant avec pas mal d'auteurs japonais, il y a un peu un truc de bon, une fois que le jeu est signé, le travail est un peu terminé. Et on a pleinement confiance en la maison d'édition avec qui on signe. Donc, si vous voulez faire des changements, c'est parti. Donc là, en l'occurrence, notre auteur n'a pas été spécialement extrêmement impliqué dans tout ce processus-là. Et là, on a changé énormément de choses. Tu vois, on a mis les mains dans le cambouis. Et là, on est quatre associés. C'est peut-être moi qui arrive avec le plus de bagages en termes de game design. Mmh. Donc, et amener le plus de discussions sur tous ces éléments-là. Donc ça, c'est même important pour nous de pouvoir le faire. Et là, sur notre troisième jeu, qui est un auteur français, on a cet aspect-là et on a cet aspect que moi j'aime bien et qui m'apporte pas mal de confort, et je le vois quand j'en discute un peu autour de nous, qui apporte pas mal de confort aux auteurs et aux autrices avec qui on pourrait bosser. C'est ce côté en fait je vous connais, donc je sais comment ça se passe, donc promis jamais on sortira un jeu et vous aurez pas vu la couve avant quoi. Promis, le moment où on va choisir l'illustrateur ou l'illustratrice, on va en discuter. Évidemment on va arriver avec des arguments de pourquoi on a envie de bosser avec machin ou machine, mais voilà, on va vous écouter. Si vous nous dites c'est mort, on n'aime pas du tout, c'est parti. On essaye de payer un peu plus en temps et en heure, on essaye de faire un peu gaffe aux petites attentions. En fait, l'avantage, c'est comme j'ai bossé avec pas mal de maisons d'édition un peu différentes, je peux voir tous les petits trucs où je me suis dit ah cool, ça a vraiment trop bien, et me dire bah ok, on va le faire aussi parce que c'était trop cool.
Ouais, t'essayes de t'appliquer ce qui t'a plu et d'éviter ce qui te déplaisait.
100%. Ouais.
Et sur cette partie édition, il y a un dernier point que je voulais aborder, c'est comment tu fais pour C'est quoi tes axes de décision pour un jeu, en fait? À quel moment tu te dis on va partir avec cet auteur et ce jeu-là plutôt qu'un autre?
Il y a pas mal de dimensions. Nous, on fait partie de, parce que c'est des valeurs qui sont importantes pour nous, mais on fait vachement attention à qui a créé le jeu derrière.
Ok.
On sait que c'est des aventures qui sont longues. Tu vois, on parlait de 2 ans entre le moment de ta signature et le moment de la sortie. Donc on a à cœur tous les quatre de se dire, en fait, on veut bosser avec des gens avec qui on sait que ça va bien se passer. Et on s'est toujours dit s'il y a tel auteur qu'on n'aime pas du tout, avec qui on se dit que le feeling il est vraiment mauvais, qui nous propose un jeu et qu'on se dise le jeu il est super, bah tant pis, on le fera pas parce qu'en fait on va en souffrir et ça sera de naze. Et après on a aussi une dimension où on a à cœur d'être une maison d'édition qui sort peu de jeux par an. Tu vois, on a sorti un seul jeu l'année dernière, même pas, on n'a pas sorti de jeu l'année dernière, District Noir est arrivé un peu avant. On a porté District Noir tout l'année dernière, là on va sortir un ou deux jeux cette année grand maximum. On a envie de prendre vraiment le temps d'être hyper convaincu et de sortir des trucs en se disant quand ça arrive on y croit de ouf. Ce qui est facile à dire, hein, la plupart des maisons d'édition croient en leurs jeux, même si y en a qui sortent 20-30 jeux par an et fondamentalement tu les chouchoutes pas tous pareil. Et on a un espèce de tamis d'excellence, on va dire, de comme on est quatre à prendre la décision, il faut que le jeu, pour l'instant, le prototype nous ait plu à tous les quatre. Ce qui fait que idéalement, on se dit que ça va nous aider à sortir des meilleurs jeux parce qu'il y a déjà quatre regards très critiques dessus. Et donc on essaye de se dire, bah voilà, le jeu nous a plu à tous les quatre, on y croit de ouf, ça va être trop bien. Et d'arriver avec des trucs qu'on trouve vraiment chouettes.
Et ça vous permet de gagner du temps sur ces deux années-là, le fait de sortir très peu de jeux. Tu sais, vu que vous êtes.
L'avantage, c'est qu'on n'a pas de jeux dans le pipe.
Ouais.
Comme on en signe très très peu, donc là, si demain il y a un auteur ou une autrice qui nous présente un jeu et que c'est super, on a un jeu qui est en cours d'édition pour cette fin d'année ou le début de l'année prochaine, mais on pourrait facilement dire, ok, bah ton jeu il sort fin 2025. Sans aucun problème parce qu'on a la place pour le faire. Après, on est quatre et on est trois à avoir encore un job à côté.
Ouais.
Tu vois, moi, le game design me prend en spirale, ça doit me prendre 5 heures par semaine, je pense à peu près. On a Mathias qui est à temps plein sur la structure, et Yannick et Guillaume, tous les deux, ont encore leur taf à côté. Donc, fondamentalement, ça fait aussi que même si on dégage du temps, on n'est pas non plus aussi efficace qu'une maison d'édition où il y a quatre personnes à temps plein qui feraient tac 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 et qui avanceraient vite. Et on a quand même un peu à cœur de prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses. Et ça, moi, c'est un truc que j'ai vachement appris, typiquement, tu vois, des maisons d'édition avec qui j'ai pu bosser. Ça me dérange jamais de signer un prototype et qu'on me dise, alors c'est super, il y a encore du taf, ça va sortir dans 2 ans, mais voilà, bah là, on commence, on réfléchit à des trucs, on teste, on revient vers toi. Et il y a un truc de trop bien, en fait, éditer un jeu, ça prend du temps, prenons le temps de bien le faire. Ce qui est désagréable, c'est ces moments où tu signes un jeu et puis la maison d'édition fait. Trop bien, c'est pour 2026, je le mets sur une étagère et puis je reviens vers toi en février 2025. Et en février 2025, c'est « Pardon, il faut qu'on se dépêche très très vite parce qu'en fait, on voudrait que ça sorte en 2026. » Et là, c'est l'enfer, quoi.
Je vois. Il y a un dernier parallèle que je voudrais faire, tu vois, c'est dans le monde du numérique, on va dire que tout va très vite et qu'il faut produire vite parce que tu as généralement une raison qui est de faire du business, qui est faire de l'argent. Quand je t'entends dire « prendre son temps », bien faire les choses, tu vois, je me dis c'est un peu en décalage avec le fait de faire du business. Alors toi t'as un travail à côté, donc tu le disais tout à l'heure, tu vis de tes royalties, mais les auteurs et les autrices qui viennent chez vous, est-ce qu'ils ont un, enfin comment ça se passe, tu vois, est-ce qu'il y a un besoin un peu urgent de se dire ah il faut qu'on y aille parce que il faut que ça sorte parce que j'ai besoin d'argent, ou c'est plus j'ai pas envie de dire ça comme ça, mais un métier passion, tu vois, genre on le fait pour le kiff et ça paye pas. Enfin, tu vois, il y a un peu, c'est quand même ce truc de se dire où est le curseur aussi sur la rentabilité, la viabilité du métier.
C'est le kiff qui porte tout ça, ouais. 100% de, entre autres parce que les modèles de rémunération sont faibles. Hein, si je regarde, imaginons, on reprend mon exemple de j'ai fini mon prototype trop bien et je le présente demain, je signe avec une maison d'édition, je vais toucher une avance sur royauté, comme dans le monde du livre, et qui est extrêmement variable, mais qui est pas dans la même logique que le livre, qui est un peu genre, ok, tu vas bosser tant de temps, donc on va te payer tes heures par rapport à ce que tu bosses.
Okay.
Là, c'est plus, on va te donner un peu d'argent pour sceller le contrat. Donc, quand je dis un peu d'argent, en moyenne, on est autour de 1 000-1 500 euros. Il y a évidemment des cas incroyables de gens qui sont bataillés et des avances à 30 000 balles complètement ouf dans le monde du jeu. Tout comme il y a des avances à 500 balles parce que la maison d'édition a pas trop de sous. Mais 1 000-1 500, c'est à peu près la moyenne, évidemment, hors taxe, hein, brut. Donc j'ai touché ces sous-là au moment où j'ai fait mon truc sur un jeu qui m'a pris peut-être 4 mois à présenter, et à créer. Donc évidemment, je peux pas vivre 4 mois avec ces 1 500 euros. Derrière, le jeu va passer en édition et pendant tout ce système éditorial, moi je vais rien toucher. Il va arriver ensuite en boutique de jeu, allez, on va imaginer 18 mois plus tard parce que tout s'est bien passé. À ce moment-là, il va se vendre pendant idéalement très longtemps, mais des fois pas si longtemps que ça. Et moi, je vais recevoir des relevés tous les 3, 6 ou 12 mois en fonction des maisons d'édition. La moyenne étant plutôt à 6. Donc j'ai sorti mon jeu en janvier, incroyable. En juin, je reçois mon relevé de vente. Je facture ce que j'ai à facturer. et en juillet, je vais être payé. Donc globalement, mon jeu que j'ai fait en mars 2024, je vais être payé en juillet 2026. Donc ça fait que fondamentalement, c'est un des trucs qui fait qu'on peut pas se dire « Ok, c'est parti, je me lance comme auteur de jeu à temps plein, ça va être mon métier ». Et on est payé en royauté sur les ventes. On est généralement en moyenne entre 3 et 4% du prix de vente hors taxe public.
Oh.
Entre 6 et 10% de ce que gagne la, ce que touche la maison d'édition.
Ok.
Donc faut vendre un paquet de boîtes pour réussir à être un peu stable et un peu à l'aise financièrement.
Faut sortir 70 jeux, c'est ça?
Et faut en sortir, il y a un peu les deux techniques, ouais, moi, enfin, techniques. Il y a un peu les deux profils. Moi, je suis un auteur à temps plein parce que j'ai plein de sorties qui fait que, bah, j'ai des jeux qui me rapportent régulièrement un peu de sous de ci, de là. Mais j'ai aucun jeu qui, aujourd'hui, je me dis, OK, bah, j'ai que ce jeu-là, je peux payer mon année avec et puis c'est tant mieux. Et puis, bah, il y a des auteurs, on parlait de Dixit, Jean-Louis Roubira qui est seul auteur de Dixit. Globalement, je pense que son million d'exemplaires annuels lui permet de vivre assez assez tranquillement, sans aucun stress. Tout comme le mec qui a fait Codenames ou les gens derrière Jungle Speed, tu as tous ces jeux qui sont vraiment des gros, gros best-sellers. Ça peut porter un auteur ou une autrice pendant toute une année.
Et...
Mais fondamentalement, tous ces trucs-là fait que bah, la plupart des gens qui nous contactent et la plupart des gens qui font de la créa, et même moi aujourd'hui, hein, je le fais parce que c'est cool. Mm. Si jamais je voulais un métier plus rémunérateur, je chercherais certainement autre chose et peut-être que je trouverais. Peut-être pas, mais peut-être que je trouverai. Donc la plupart le font parce que c'est chouette.
Okay. Et d'ailleurs, toi, ça te met pas un stress supplémentaire d'en faire ton job à temps plein, de dire il faut que je produise, il faut que je sorte des trucs, il faut que ça marche. Tu vois, j'ai l'impression que ça te, dans la vision que ça me donne, c'est que ça te rajoute une contrainte supplémentaire qui, celle-ci, est pour le coup non négligeable.
Il y a un peu le double axe de. Moi, je suis très rassuré par le fait que j'ai des jeux qui perdurent dans le temps.
Ouais.
Tu vois, on parlait de Sea of Clouds au début, bah, c'est un jeu qui est sorti en 2016. Aujourd'hui, on n'en vend plus beaucoup, mais tu vois, ça me rapporte peut-être 1000, 1200 balles de droits d'auteur par an, ce qui va pas me faire vivre, mais où je me dis, OK, pour un truc que j'ai, sur lequel j'ai bossé il y a 10 ans, tout va bien, c'est chouette. Et puis, la multiplicité des jeux fait que, bah, c'est un peu plus facile. Et j'ai quelques trucs qui ont vraiment très correctement marché, donc je me dis, OK, peut-être que dans 5 ans, ils seront encore là. Et à la fois, effectivement, des fois, je me réveille la nuit et je me dis, mais je sors quoi en 2026? Mais j'ai pas beaucoup de jeux pour 2026, mais il faut que je me sorte le doigt du cul, mais comment je vais faire pour gérer tout ça? Et des fois, ça me stresse un peu. Après, moi, j'aime bien, je crois que je suis assez confort avec ce côté un petit peu bohème du truc de se dire, je me laisse porter par le courant, et puis, bah, tu vois, là, je sors de 2-3 années assez fantastiques au niveau vente et donc au niveau revenu. Je sais que 2024 va peut-être être un peu en dessous, bah, tant pis, j'achèterai moins de conneries, et puis la vie sera quand même super, quoi. Il y a vraiment un truc de se laisser un peu porter.
Cool. Merci beaucoup. Pour conclure, est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais voulu qu'on aborde, qu'on n'a pas abordé, ou une question que tu aurais voulu que je te pose, que je t'ai pas posée?
Ah, c'est dur ça à chaque fois.
Ouais.
Non, je crois que ça va. En fait, je suis une pipelette, donc on aurait pu partir dans encore plein de directions, mais ça me va très bien.
S'il y a d'autres directions que tu veux qu'on aborde, on peut y aller.
Non, non, c'est cool. On a fait bien le tour. Après, il faut pas. On en parlait un peu en intro, en off tous les deux, mais. J'ai peur après d'aller dans des considérations trop techniques de game design qui va pas forcément être très très vulgarisé pour tout le monde.
Ça marche. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander, à inviter dans le podcast?
Oui, j'ai préparé la réponse à cette question. j'ai cherché et en me disant tiens, ça serait bien de rester un peu dans mon domaine, mais d'en sortir un peu. Et j'ai pensé à Chloé Blondel, qui est une autrice de jeux, mais pas de jeux de société pure. Elle travaille surtout sur des jeux d'enquête.
Okay.
En toute sincérité, j'ai bossé avec elle sur un projet qui s'appelle Sous-Scellé, qu'elle a cofondé, qui sont des enquêtes à la maison où toute l'idée, c'est que tu ouvres une boîte et il n'y a pas de règles de jeu, c'est que du matériel et à partir de ce matos qui sont des vraies fausses preuves, il faut que tu détricotes un peu tout ce qui s'est passé dans une affaire.
Oh wow.
C'est un truc qu'elle a co-créé il y a quelques années. Et à côté de ça, donc sur ça, elle gère la boîte et elle fait une grande partie du game design des enquêtes. Et à côté de ça, c'est une des premières personnes à avoir créé une escape room en France, à avoir amené le concept à Paris avec la pièce. Et c'est vraiment une personne à la fois formidable et extrêmement talentueuse. Donc j'adorerais écouter Chloé à ton micro.
Trop bien, ben merci beaucoup pour la recommandation. Est-ce que tu as des ressources à nous recommander?
J'ai 3 trucs en tête. Un qui est un peu de l'autopromo, mais je vais quand même le faire.
Vas-y.
Parce que... Profitons-en, mais j'anime moi-même un podcast qui s'appelle 63-88, le pire nom de podcast du monde, ça a une signification quand on cherche un peu, avec Zéphiriel qui a pour vocation de parler de création de jeu. On a fait un premier cycle, les 8 premiers épisodes, c'est la création d'un jeu du tout début jusqu'au moment où il est arrivé sur les étals et qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la communication des autoristes de jeu, comment on gère tout ça.
Donc c'est ce podcast, mais en beaucoup plus dense.
Ouais, c'est un peu ça, en 8 épisodes de 45 minutes.
Très bien.
Et après, on a fait pas mal d'épisodes avec des différents invités, justement pour parler de c'est quoi le rôle d'un illustrateur ou d'une illustratrice dans le monde du jeu, d'un distributeur, et après des trucs très spécifiques sur des projets très précis. Là, on a reçu il y a pas longtemps le dernier épisode, c'est avec Régis Bonnecet, qui avait créé Libellule, donc la maison d'édition de Dixit, qu'il a revendu à Asmodée il y a quelques années, et qui a créé un projet qui s'appelle Alterd, qui est un jeu de cartes à collectionner qui vient de passer sur Kickstarter, là, en crowdfunding, qui a levé 5 millions, je crois, au final. Wow. Donc, qui a vraiment cartonné et qui a plein d'innovations justement très fortes, y compris techno, autour du jeu de cartes.
D'accord.
Donc, un très chouette épisode. Et on part après dans plein de directions, mais toujours autour du game design. Et j'ai quand même un bouquin, parce que c'est toujours un peu chouette de recommander un bouquin, ça fait un peu genre je suis un mec intelligent. mais il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent de jeux de société contemporains, de game design, de jeux de société précisément. Néanmoins, moi j'ai lu un livre de game design de jeux vidéo dans ma vie, un peu parce que Antoine Bozat dit souvent que lui il y a un livre qui l'a marqué, donc j'ai un peu suivi des traces d'Antoine qui est hyper important pour moi, c'est A Game Design Workshop de Tracy Fullerton. Qui est un bouquin qui est assez intéressant parce qu'il est hyper ludique dans son approche du game design, dans le sens où il te donne des petits exercices, t'as un peu des devoirs à faire.
Okay.
Pendant un temps, moi, j'ai tenu un journal intime de game design, un peu où j'ai je bosse sur tel projet, ça me plaît pas, ça me plaît. Je vais faire un peu ça. Ça indique vraiment plein de petits exos à faire, qui sont vraiment très très chouettes. Et en même temps, ça donne plein de notions sur le processus itératif, ce que c'est un prototype, comment ça marche. Vraiment très cool.
C'était les deux ressources, du coup. Je crois que tu en avais trois.
Et j'avais dit trois, ouais, tout à fait, pardon. C'est bien. Tu suis mieux que moi. Un peu à côté, mais il y a Bruno Feduti, qui est un auteur de jeux de société qui est là depuis le début. Il a fait notamment Citadel,
ouais.
Qui est un des jeux assez importants. Il sortait ses premiers jeux avant ma naissance. Il y a un truc assez chouette de voir que c'est vraiment un mec qui a créé et chapeauté un peu le jeu de société contemporain tel qu'il est aujourd'hui, qui a un blog sur son site web qui est feduti.com/blog. Où il parle de game design, il parle de ses créations, mais il fait pas que de la promo. Il parle aussi de plein de questionnements. Là, il a fait un billet qui était assez intéressant sur pourquoi est-ce que en ce moment on voyait que des jeux sur les thèmes de la nature, alors que lui, ça le faisait vraiment chier. Et comment, lui, en tant que mec de 60 ans, son champ d'univers et de fantasmes n'était pas du même côté que celui des nouvelles générations. Et comment lui, il était biberonné aux jeux de fantasy et de science-fiction, et que forcément, un truc où on fait des balades dans les bois, ça le faisait complètement chier. Alors que moi, c'est un thème qui me fait rêver de ouf en bon citadin qui voit le monde se détruire autour de soi. Et il fait plein de... C'est entre les conseils, un peu les billets d'humeur et l'analyse, mais je trouve qu'il écrit vraiment très très bien.
Cool, et là, je mettrai les trois ressources dans la description de l'épisode pour les gens qui veulent aller voir. Et j'imagine que si les gens veulent te contacter, Twitter est le meilleur endroit pour...
Twitter, Insta, ça marche très bien.
Marche.
Si je réponds pas, n'hésitez pas à me relancer. C'est ce que je dis toujours généralement quand je réponds pas. Après, les gens ils disent tu m'as pas répondu, alors je t'ai pas relancé. C'est que j'ai oublié votre message. si je veux pas répondre, je vais botter en touche en mettant un message qui botte en touche, mais je réponds à 100% des gens. Donc,
très bien.
N'hésitez pas à me relancer.
J'en profiterai aussi pour mettre ta chaîne Twitch. Comme
ouais,
ça,
tout à fait.
Comme ça, les gens pourront aller voir te faire. Voir ce que tu fais en fait en direct et mettre. Mettre un visage sur ta voix.
Avec grand plaisir.
Écoute, Théo, je tiens encore à te remercier pour ton temps. C'était grave chouette. Merci d'avoir partagé ton métier avec nous. Et puis, je te dis à très bientôt.
Ah ouais, à une prochaine avec grand plaisir. Ouais. Merci pour l'invite.
Avec plaisir. Salut.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu. Alors, n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. Tu peux également en profiter pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Tu peux enfin t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée et activer les rappels pour être informé dès la sortie d'un nouvel épisode pour pouvoir l'écouter. Allez, on se retrouve dans 2 semaines avec un nouvel épisode. Salut !